Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. Avec nous ce soir, du beau monde, surtout à ma droite, hein. Arthur, Léo, Cheikh Kenza et Philippe qui va venir nous rejoindre un peu plus tard dans l'émission. Comment ça va, Arthur?
Ça va très bien.
Ah, fais pas le timide, Arthur, rapproche-toi de ton micro et prends la parole, vraiment. Comment ça va, Arthur?
Ça va bien, et très content de pouvoir revenir avec vous et discuter football.
Ça fait un petit moment que tu viens plus, Arthur, hein. Tu nous as délaissé, hein. Cheikh Kenza le disait juste avant, maintenant que t'es dans les grands plateaux TV, ça y est, tu nous boycottes un peu, c'est ça?
Non, pas du tout, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas un jour?
Ça va, bonne semaine de football?
Ça va, on est en tournoi samedi, ça s'est passé correctement et voilà les entraînements, le quotidien quoi d'un
c'est
éducateur.
Quoi correctement, vous avez fini combien de temps? Parce qu'il est fait... aussi coach, hein, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas.
On a fait sur ce tournoi-là, on a fait 9e sur 16, c'est correct.
Voilà,
on
10e
a raté,
sur 16.
On a raté, on s'est pas qualifié pour les 8e, donc on a fait une autre compétition, donc il fallait... faire des quarts, des demi-finales et finales dans l'autre partie de tableau, on va dire ça comme ça. Et le dernier match, ben on l'a perdu 1-0, c'est pas grave. Mais voilà, on a fait notre tournoi qu'on devait faire, tout simplement.
Merci Arthur. Comment ça va Léo?
Bah, ça va et toi Eladj?
Ça va, super, content de te voir.
Bah merci, moi aussi, pareil pour l'équipe.
T'as passé une bonne semaine de football?
Bah écoute, ça a été, et puis j'attends surtout celle qui arrive, parce que je pense qu'elle va être, bien sympathique. Donc,
on espère.
On va en,
tout cas.
Parler là, mais... Mais ça s'annonce sympa.
Ça s'annonce sympa, comme tu l'as dit. Cheikh Kenza, comment ça va? What's your name?
My name is Cheikh Kenza.
Oh, how are you?
I'm fine, and you?
I'm fine, thank you. Cheikh Kenza, comment ça va?
Bien, bien, bien.
Ça va, bonne semaine de football?
Ouais, bien, bonne semaine, tranquille. À regarder des matchs et tout ça.
Tu m'as l'air un peu fatigué, d'habitude t'as plus d'enthousiasme.
Non, pas du tout, mais c'est le ramadan, pas du tout en fait. Tu vois, en début d'émission, faut pas donner toute l'énergie quoi, il faut garder un peu.
Ah oui, faut garder un peu pour la Ligue des Champions, c'est ça?
Bah, il y a plein de choses à dire.
Ok, on y arrive en tout cas. Philippe qui va nous rejoindre incessamment sous peu, on va démarrer bien évidemment avec la Ligue 1, hein, la Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui étrit Lille tout simplement, hein, 4 buts à 1, un Paris Saint-Germain trop fort. Comme les anciennes journées, de toute façon on voit, hein, c'est un Paris Saint-Germain qui déroule, peu importe le 11 titulaire, c'est un Paris Saint-Germain très sûr de lui et très sûr de ses forces, et c'est une bonne chose avec les matchs à venir. Par contre Lille qui se sont imposés 4 buts à 1, on espère que ça va aller et qu'ils pourront reprendre le pas dès cette semaine, en tout cas en début de semaine. Lyon s'impose grâce à un doublé de Lacazette. Lacazette était vraiment l'homme du match, hein, celui qui a créé le pénalty et celui qui a mis le doublé et qui... bien évidemment permis à l'Olympique Lyonnais de s'imposer 2 buts à 1 face à Brest, avec une nouvelle petite polémique sur Fonseca, hein. On y reviendra bien évidemment, et aussi Marseille qui s'impose dans le dur un peu, hein. Marseille qui s'impose 2 buts à 0 face à Nantes à domicile et garde sa place de dauphin à 3 points de Nice qui se sont imposés 3 buts à 1 face à Saint-Etienne aussi. On n'a plus besoin de le présenter, Biérrette, triplé encore. Voilà, c'est tout simplement magistral, il est déjà à 10 buts en Ligue 1, hein, soit plus que la plupart des attaquants qui ont débuté cette saison, et on rappelle qu'il est arrivé que cet hiver, et il est déjà à 10 buts, plusieurs triplés, 3 triplés à son actif, et il permet à Monaco de s'imposer 3 buts à 0 face à Reims. Reims, rien ne va plus du côté des Rémois, ça fait 4 matchs consécutifs qu'ils ne parviennent pas à marquer, et qu'ils enchaînent aussi les défaites. Problème, attention, il se rapproche très très vite de la zone rouge, attention. Et Rennes qui font le contresens, hein, tout simplement. Rennes qui sont imposés 4-0 face à Montpellier grâce à un début de Habib Bey, tout simplement magistral. Hein. Habib Bey qui sait parler aux joueurs et qui montre un autre visage de Rennes. Et Rennes, tout simplement... qui remonte la pente très très vite et qui enchaîne une quatrième victoire tout simplement en 5 matchs, si je ne dis pas de bêtises, et c'est bien ça. Et voilà, quels sont vos faits marquants de cette Ligue 1, Arthur ?
Non, au-delà de la journée du quotidien, moi je dirais que c'est surtout le choc qui devait être un choc et qui allait en sens unique en faveur du PSG, quand tu penses que les Lillois ont essayé de faire comme le PSG, faire tourner leur effectif et résultat, ils ont pris une raclée en première mi-temps et le match était déjà terminé, quoi. Donc moi, je pense surtout au droit télé avec le sujet qu'on va parler tout à l'heure, mais pour moi, ce n'est pas une bonne publicité pour notre Ligue 1 si des clubs, des top clubs français choisissent leur calendrier, tout simplement.
Sûrement aussi faire tourner, je pense, avec la Ligue des Champions qui approche. Hein. Peut-être qu'ils ont peut-être un objectif un peu plus grand cette année de jouer la Champions League à fond. Et je pense qu'ils n'ont pas l'effectif pour jouer la double confrontation, en tout cas pour jouer le Paris Saint-Germain le samedi et ensuite pour enchaîner avec Dortmund juste après. On verra bien. Chez Kenza, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ?
Ouais, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, vraiment... Ils ont choisi vraiment, ils ont tout misé sur la Ligue des Champions. Donc du coup, vraiment, c'était une équipe bis. Voilà, donc il a fallu tourner et tout ça. Et bien, il s'est dit que vraiment, peut-être l'équipe bis aurait au moins cherché au moins un résultat match nul. Mais ce qui n'a pas été le cas, le PSG vraiment a été ultra dominant dans tous les secteurs de jeu. On a vu un Paris vraiment qui a maîtrisé son sujet de bout en bout. Voilà, qui a montré vraiment sa force de domination, son impérialisme sur cette Ligue 1. Donc, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau, mais il y a aussi l'avantage aussi qui est financier, parce qu'en Ligue des Champions, quand tu passes sur tout là, il y a le coffre aussi qui sera rempli. Donc, ils ont primé plutôt sur l'aspect financier que footballistique. Quoi.
Ça, c'est ton avis. Merci, Cheikh Kenza. Léo, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match
Moi, je suis d'accord sur le fait que Lille ait fait tourner au Parc des Princes. Pour autant, je pense que peu importe l'équipe qui aurait aligné Genesio, le Paris Saint-Germain était tout simplement trop fort. La première mi-temps qu'ils ont livrée, parce que la deuxième, le score était déjà acquis, même Lille a pu revenir. Je pense que ça fait très longtemps. Moi, je ne me souviens pas avoir déjà vu même un PSG jouer aussi bien, être aussi dominateur et réaliste, parce qu'ils ont été ultra réalistes. Il y a un monde d'écart entre le PSG et le reste du championnat, ça on le sait. Que ce soit en termes de budget, d'effectifs, de résultats, tout ce qu'on veut. Pour autant, je trouve que ça a vraiment été mis en exergue samedi soir. Concernant Lille, c'est pas rassurant, parce que même si tu te dis que tu veux tout miser sur la Ligue des Champions, je pense que le meilleur moyen de préparer un gros match, c'est quand même d'essayer de se mettre en confiance le match d'avant. Qui plus est alors qu'il n'y a que 3 jours qui séparent ces derniers. Voilà, c'est pas une bonne opération. Puis en plus, dans la course à l'Europe, tu vois les prétendants revenir quelque peu à hauteur. Donc voilà, c'est pas forcément la bonne opération pour le LOSC.
Merci Léo. On va enchaîner avec l'Olympique de Marseille qui se sont imposés 2-0 face à Nantes. Un match pas très plaisant à voir hein, avec Nantes qui ont eu pas mal d'occasions aussi et qui peut se mordre les doigts de ne pas avoir ouvert le score. On pense à notamment pas mal d'actions, notamment Albin en première mi-temps où c'était assez chaud avec Moses Simons aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Arthur ?
La logique pour moi elle est respectée. Hein. Pour moi la meilleure équipe. La meilleure équipe, elle a gagné, celle avec le plus de talent. Et pour gagner des matchs, il faut être réaliste. Et les Marseillais ont eu l'opportunité d'avoir ces occasions et de les finir. Quand on voit le but de Greenwood, où, parce que Palois va essayer de s'expliquer avec l'arbitre et le coup franc est joué très rapidement. Le gars, il n'est pas replacé. Et sur la transition, ils prennent ce but et c'est pas intelligent de sa part. Et c'est pour moi la différence aussi entre les deux équipes, c'est ça, c'est avoir des joueurs qui sont plus de qualité, tout simplement.
Merci Arthur. Cheikh Kenza, qu'est-ce que tu en as pensé du match de Marseille?
Ouais, mais vraiment, Marseille, vraiment, je suis pas surpris en fait parce qu'ils ont proposé. En face aussi, Nantes, bah, à un moment donné, il y a quelques belles choses, mais ça n'a pas été dans la continuité. Je crois que vraiment, cette saison, on a un Marseille un peu à deux visages en fait. Je dis que par moment, ils nous sortent des prestations XL, par moment aussi, ils nous sortent des pieds de prestations. Parce que je crois que Marseille, vraiment, ils ont le potentiel. Parce que comme ils l'ont montré là, face à Nantes, ils ont le potentiel. Parce que Nantes aussi, ce n'est pas en fait un top classé de la Ligue 1, mais ils ont le potentiel aussi pour, voilà, pour chercher plus. Comme l'entraîneur l'a dit, je crois qu'il y a une équipe à fort potentiel, mais il y a un peu quelques incohérences. Il y a des petits trucs à régler. Pourquoi pas pour la saison prochaine, essayer d'aller titiller vraiment le Paris Saint-Germain, en fait. Essayer de mélanger un peu le classement, l'orgue et tout ça. Mais je crois que
Merci.
c'est une équipe avec un bon effectif qui peut faire mieux.
Merci, Shakenza. Léo?
Moi, je pense effectivement qu'elle peut faire mieux, surtout dans le jeu, parce qu'il y a des joueurs de qualité, on l'a encore vu hier. Après, c'était un résultat mérité de gagner contre Nantes, bien que la prestation d'ensemble, je trouve qu'elle a été assez décevante. Même Greenwood, qui a été élu homme du match, bah, on salue juste ses stats, parce que voilà. Mais sa performance d'ensemble, comme à l'occasion de nombreux matchs d'ailleurs, elle a encore été décevante. Mais après, c'est aussi ce qui fait que il est considéré comme un, entre guillemets, grand joueur. C'est comme Lacazette plutôt dans la journée. Ce sont des joueurs qui font pas des bons matchs, parce que Lacazette fait pas un bon match, mais il est capable de te sortir des coups et qui permettent à leurs équipes de marquer. Voilà, l'OM, je pense que c'est une équipe. Il y a aussi quelque chose qui a changé par rapport à Auxerre la semaine dernière, c'est qu'il y a Balerdi qui était là, alors qu'il était absent la semaine dernière pour suspension, il me semble, qui a fait un énorme match hier. Il s'est vraiment imposé, je trouve que le brassard de capitaine lui va bien. Et puis Nantes était venu avec des idées, hein. On a vu qu'ils essayaient de jouer un petit peu haut, avec un pressing plus ou moins réussi. Il y a des bons petits joueurs. Effectivement, Moses Simon qui est là depuis longtemps. Il y a Matisse Abline, international espoir. Il y a le jeune Leroux qui a marqué la semaine dernière sur son premier tir en Ligue 1, qui a encore été intéressant hier. Après, c'est un effectif. Voilà, c'est Nantes. Ça fait plusieurs saisons qu'ils jouent le bas du classement. C'est un effectif pour jouer le maintien, je pense. Je pense que voilà, la logique a été respectée et que le 2-0 sans être flamboyant est logique.
Merci Léo. Il y a Lyon qui se sont imposés 2 buts à 1 avec Alexandre Lacazette aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, Arthur?
Bah pour moi, je suis un grand fan de Pierre Sage, hein. Mais depuis qu'il est parti, il y a une chose à constater, c'est que l'équipe elle s'exprime mieux offensivement. Il y a beaucoup plus de buts. Je crois qu'ils sont à 12 buts en 4 matchs. Et une énorme différence. Lacazette, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sur un bon rythme cette année. Il n'était pas aussi performant que là, puisque même si on reproche un attaquant, on essaie de le juger sur sa qualité dans le jeu, mais. Quand tu portes le numéro 9 ou quand tu es attaquant de pointe, tu dois finaliser. Si tu finalises pas, ben on cherchera toujours un attaquant pour finaliser et il a fait son travail pour moi. Donc
Donc pour toi, lui, Lacazette est devant Miko Tadze, pour toi, il n'y a pas de débat.
pour moi, tout dépend de l'adversaire, mais pour moi, quand tu peux pas te passer de deux bons joueurs. Tu dois trouver une solution, un système pour faire jouer les deux ensemble. Moi, je suis un grand fan aussi de Miko Tadze et même si c'est difficile, hein, quand on regarde le milieu de terrain et l'attaque, tu sais pas vraiment qui sortir, mais il faut trouver un espèce de turnover pour pouvoir faire jouer un maximum ces deux joueurs-là, avec Cherki, avec Tolisso, tous ces mecs-là ensemble pour que y ait de la magie quand on regarde l'Olympique Lyonnais.
Merci Arthur. Cheikh Kenza, toi aussi.
Ouais, je crois que Lyon, vraiment, Lacazette, je suis content pour lui parce que là, c'est une très bonne prestation. Déjà, voilà, d'enchaîner deux buts et tout ça. Et comme il a dit avec Miko Tadze aussi, oui, il va falloir alterner en fait. Parce que en fait, si vraiment Lyon veut faire une très bonne fin de saison, il va falloir alterner, trouver l'équilibre parfait, voilà, entre ces deux joueurs. Et pourquoi pas, si c'était un match, les aligner ensemble, par exemple Lacazette, voilà, en 10, voilà, on faut 9 et tout ça, 9 et demi, et Miko Tadze un peu plus haut, parce que voilà, Lacazette, il a une palette de jeu un peu plus large, ça pourrait être peut-être avantageux aussi à l'esprit d'équipe et tout ça. Et je crois que Lyon, vraiment, sur ce match-là, ouais, ils ont été impressionnants. au niveau des, voilà, au niveau des passes et tout ça, au niveau de l'attitude, voilà, ça a été correct et tout, même dans l'enjeu, voilà, on a vu vraiment une certaine motivation, on a vu vraiment que voilà, qu'il y a dû quelque chose qui a dû se passer vraiment en interne, peut-être un message ou un déclic, ou c'est pas l'orgueil a été fouetté un peu, un truc comme ça, voilà, qui a dû peut-être les réveiller. Donc et au final, ben, ça a été un beau match. Moi, j'ai été vraiment très heureux de regarder ce match.
Mais aussi, on n'a pas parlé de Brest, hein, parce qu'en ce moment, les résultats, ils sont vraiment dans le négatif. Ouais. Et il n'y a plus de recette miracle, hein, depuis le PSG. Hein, depuis...
Bah, je pense que c'est depuis la Ligue des Champions, en fait. Hein, je pense.
Non, même avant.
Mais le fait d'avoir enchaîné les deux, c'est ce qui nous les a pas aidés.
Enfin, les trois, parce qu'ils ont joué très, très rapprochés. Le premier match, la polémique avec un but hors-jeu qui restait dans leur tête et voilà, et après il y a aussi voilà l'adepte aussi, qui est un adepte du turnover, et pour l'instant il a plus retrouvé son équipe type.
Moi je crois que ça peut pas être une excuse, parce que Brest, quand on joue la Ligue des Champions et avec la saison dernière et tout ça, ben maintenant ils sont préparés, en fait c'est comme si là ils se mettent dans le mental, donc il faut être fort mentalement, il faut être costaud. Donc à un moment donné, ça c'est le passé, même si vraiment là, le match contre le PSG, on oublie vite, au fait au niveau, toi-même tu le sais. Ben là, t'es un peu dans la formation, tu sais comment ça se passe. Quand il y a une mauvaise prestation, on oublie vite, on recharge les batteries, on part de l'avant. On se dit que voilà, il y a des échéances à futur à gérer. Donc le passé, ça reste le passé. Oui. Mais là, ils ne peuvent pas encore rester dans cette spirale. Non, mais... de se dire que oui, que le PSG et tout ça, non, c'est passé. Non, mais à un moment donné, ils doivent rebondir.
Pour moi, c'est Brest n'était pas à sa place. Ce n'est pas une équipe qui a l'effectif ou qui a les moyens humains ou matériels pour être en Ligue des Champions. Pour moi, c'est une anomalie qui n'est pas... l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. C'est eux qui doivent être à leur place, et Brest, ils ne sont pas à leur place sans leur marquer de respect en Ligue des Champions.
Moi, je crois que c'est un péché mignon un peu pour le football français de dire que non, Brest, ils ne sont pas à leur place. Non, au football, il n'y a que les méritants qui y vont. En fait, quel que soit le métier dans la vie, une fois que tu mérites, tu te dois d'être. En fait, Brest a mérité au vu de sa saison. Donc, s'ils y vont plutôt, c'est qu'ils ont le potentiel, c'est qu'ils peuvent débattre les quatre. Et en plus, ils ont été barragistes.
Ouais, ils ont démontré le contraire.
Voilà, ils ont été barragistes.
J'ai été le premier à dire que Brest, non. Ouais, vous imaginez, depuis l'année dernière, je me disais, imaginez Brest dans le top 4, aller en Champions.
Franchement,
en plus, ils ont été barragistes. Ils ont été barragistes face à des équipes.
Ils ont visité des villes, ils ont pris des photos.
Parce qu'on a vu Marseille y aller. Marseille,
peut-être. Mais pour la Ligue 1.
Marseille, ça a été un peu le chat noir de cette Ligue des Champions pendant pas mal d'années. Désolé, les titulaires, les supporters parisiens, vraiment, mais ça a été un peu le chat noir, comme on dit.
Non, mais on en reparlera après par rapport aux droits télé. Mais comment on peut avoir des clubs comme Marseille ou comment dire, d'autres clubs comme Lille, etc., qui font pas des bonnes prestations, que ce soit en championnat, puisque Lille, c'est important pour eux, qui continuent à jouer la Ligue des Champions chaque année, et aujourd'hui, ils sont distancés, alors qu'ils ont balancé le match contre PSG, et pas que ce match-là. Donc pour moi, il faut de la continuité pour le championnat de France.
Merci Arthur, et merci Cheikh Kenza. Philippe vient de nous rejoindre. Salut, ça va ? Comment ça va, Philippe ?
Ah bah j'ai hâte cette semaine. J'ai hâte.
J'ai hâte aussi.
On va vivre une grosse semaine. Attends,
une
énorme.
Très grosse semaine. Hein.
Énorme.
C'est ce qu'on attend. Hein. Ah, c'est bah, le mois de mars, mois d'avril. Ah, c'est bah, là où on commence vraiment.
On va en parler tout à l'heure, mais PSG Liverpool. Exactement. On peut pas y avoir meilleure affiche. Hein.
Ouais, on peut pas. En tout cas, aujourd'hui, avec l'état de forme des deux clubs.
Ah bah oui, c'est ça.
C'est une finale avant l'heure.
Ah oui, on a hâte. On a hâte.
Qu'est-ce que t'en penses de la Ligue 1, de ces résultats, Marseille qui sont imposés 2-0 face à Nantes?
Bah écoute,
les Rennais 4-0. Ouais.
Bah c'est statu quo, hein. Paris est toujours invaincu, toujours 13 points d'avance sur Marseille. Moi je voudrais quand même mettre un petit peu l'accent sur Nice, pas le club, mais l'entraîneur. Francaise, ouais, il emmène Lens quand même deuxième du championnat dans la saison 2022-2023. Il va à Nice, il change complètement d'environnement, de contexte. Hop, le club est troisième et joue une nouvelle fois l'Europe. Donc je pense que quand même c'est un entraîneur qui...
Là, ils sont deuxième.
Qui doit être assez...
Nice. Oui, troisième, pardon.
Influent troisième,
oui,
qui
oui,
me fait peur.
À trois points de Marseille, ouais, attention, ça ouais, peut changer.
Donc je voudrais féliciter Franquès. Sinon, bon, il n'y a pas trop de changements. On sait que Paris sera champion, que Marseille, je pense, est bien assise à sa deuxième place.
Ah oui, à trois points de Nice, tu penses que...
Oui, je pense quand même. Parce que, et puis Nice, Monaco, Lille, et peut-être un degré moindre Lyon, ça va batailler pour les places européennes. Et en bas, il y a peut-être une équipe qui a peut-être fait une bonne affaire hier, c'est le Havre.
Ouais.
Peut-être que là, finalement, ils vont peut-être s'en tirer. Et moi, je m'inquiète un petit peu pour Reims, qui est quand même dans une spirale très, très, très négative.
C'est ce qu'on disait, ouais. Oui.
Et là, voilà. Sinon, bon, je pense que Montpellier est condamné. Saint-Étienne, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà, donc l'effet marquant, c'est surtout Le Havre et puis Nice. Nice. L'effet marquant Nice avec Francaise, qui doit être quand même un entraîneur qui, ouais, qui apporte beaucoup de choses dans un club. Mais sinon, c'est le statu quo, hein. Il n'y a pas de changement. Paris, ça veut le championnat.
Merci.
Maintenant, le défi, c'est de finir invaincu, quoi.
C'est ça.
Ce que personne n'a fait. Nantes a failli le faire, et puis voilà. Une certaine année, puis voilà, ça ne s'est pas fait.
Je pense qu'ils peuvent le faire.
Ah, ils peuvent le faire.
En tout cas,
oui,
comment
oui,
c'est
oui.
parti, oui. je non, pense
puis,
que...
Non, puis on en reparlera peut-être
plus
alors.
Plus 10 journées, hein, 10 matchs.
On l'a vu sur le match de Coupe de France. Cette année, c'est quand même une équipe qui joue jusqu'au bout.
Ouais.
En d'autres temps... qu'on a connu, pas si lointaine, c'est une équipe qui aurait peut-être, à un moment, à 2-3-0, été dans la gestion, ce qui n'était pas non plus inconcevable.
Hein. Et se faire rattraper,
fois. Mais là, c'est une équipe qui joue le jeu jusqu'au bout. On l'a vu contre Brest, je crois qu'il y a eu 7 joueurs différents qui ont marqué. Donc voilà, donc ça, ça dénote un petit état d'esprit quand même. Ouais. Un nouvel état d'esprit.
C'est vrai tout ça. Léo, qu'est-ce que t'en as pensé toi de Lyon et bien évidemment de Bierrette aussi qui a mis un triplé magistral et qui enchaîne.
Oui,
oui
c'est bien.
Bierrette qui est arrivé cet hiver.
Heureusement parce que Monaco c'est comme ça.
Ouais, c'est comme ça. Bah avec Mbolo c'était un peu difficile devant Mbolo, mais là ça comme Bierrette commence à empiler les buts. Du coup c'est Monaco avance petit à petit.
Moi je voulais juste rebondir sur un truc qui vient juste d'être dit sur le PSG, c'est que si on doit aller chercher, on doit vraiment chercher la petite bête, c'est que c'est une équipe qui encaisse constamment à tous les matchs, peu importe l'adversaire, peu importe la physionomie, au moins un but.
Sur coup de pied arrêté en plus.
En plus.
Oui. Ouais.
T'as deux gardiens qui sont pas très bons dans les airs,
oui.
Mais c'est surtout que c'est une équipe qui encaisse toujours un but.
Oui.
Alors, c'est quand même la meilleure défense de Ligue 1.
Oui, oui.
Oui,
dans,
oui.
Dans un championnat qui est.
Qui est
modeste, on va dire.
Clairement à sa portée, quoi, comme on
voilà.
dit. Voilà.
Mais contre une... Et ça, peu importe les équipes. Donc c'est forcément un problème quand tu vas affronter... Alors, en Ligue 1, même si tu encaisses un ou deux buts, on l'a vu contre Lyon même la semaine dernière, t'as toujours la supériorité pour finalement remporter le match. Après, il y a eu quelques accros, je me souviens de Nantes au Parc, notamment.
Oui.
Mais si tu joues contre des équipes... D'ailleurs, on l'a vu cette saison, contre des très grosses équipes, contre Arsenal, contre l'Atlético, contre le Bayern même, si tu prends un but, tu peux en prendre 2-3 assez rapidement et te faire en plus, notamment contre Arsenal, dominer dans le jeu. Donc là, Liverpool, je pense que ça va être un bon indicateur du réel niveau. D'ailleurs, le meilleur indicateur qui soit, je pense. Après, pour revenir un petit peu sur le reste de la journée de Ligue 1, moi j'ai été assez déçu du match de Lyon. Parce que la composition elle était prometteuse et que le contenu n'était pas au rendez-vous. La Lacazette marque donc comme on a dit 2 buts sur ses 2 seules occasions. Après ce sont des coups de génie. Cherki pareil qui fait pas un gros match mais qui termine encore avec 2 passes décisives. Depuis l'arrivée de Fonseca il est à 6 buts assists en 5 matchs. C'est génial pour un joueur au talent maintenant qu'on connaît. On a parlé de Bierrette, moi c'est un joueur que j'adore, c'est le profil de joueur en tout cas que j'adore, un mec qui lâche rien, qui va aller sur chaque ballon, qui a des bons déplacements en plus, il se pose pas de questions devant les cages, 3 triplés en 7 ou 8 matchs, c'est exceptionnel. Je pense que dans l'histoire de la Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait ça en arrivant en tout cas. Après, on peut parler aussi de Reims. Reims, c'est inquiétant. C'est une équipe pourtant qui a un projet de jeu à la base qui est vraiment intéressant, qui avait un effectif sympathique, mais là, qui semble tomber et ne jamais réussir à revenir. Ça me fait un peu penser, j'en parlais ce week-end avec des amis à moi, au début de saison de l'OL de l'année dernière, tu sais, où t'as rien qui va contre toi, pour toi en championnat, donc tu enchaînes les défaites, les coups du sort parce que t'as des barres, t'as des trucs qui vont pas. Sauf que la Coupe de France, c'est une éclaircie puisqu'ils sont en demi-finale aujourd'hui. C'était il y a quelques années, Caillou, c'était son rêve d'aller jouer une finale de coupe au Stade de France, donc il va peut-être y arriver.
Et 3 fois au tir au but en plus. Hein,
3 fois au tir au but en plus.
Même,
surtout contre Angers, contre Angers, si tout se passe bien, ils doivent jamais se qualifier. Mais ils sont encore là. Après, le problème, c'est que je pense qu'ils n'ont pas le même effectif que Lyon la saison dernière et que ça risque de pas pardonner. comme Montpellier d'ailleurs, qui enchaîne les mauvais résultats. Mais voilà, Montpellier, c'est un effectif.
C'est foutu.
Pour moi, c'est foutu ouais, aussi. Ouais. Mais ça va être intéressant de voir la fin de championnat, puisqu'il y a Saint-Etienne, Le Havre qui enchaîne deux résultats face à de bonnes équipes. Comme quoi, c'est pas interdit de battre de bonnes équipes, même quand tu as un petit budget et que tu es en difficulté. Donc voilà, on a un championnat qui est sympa à regarder, loin du top européen encore. Mais au moins, on va avoir du suspense jusqu'au bout, quoi.
Merci Léo, je tenais à rappeler le classement, le Paris Saint-Germain en tête bien évidemment avec 62 points, Marseille 2e avec 49 points, Nice 3e avec 46 points, Monaco 4e avec 43 points, tout ça, ça se tient juste en 3 petits ouais, points hein, à chaque fois, joué, hein. Voilà, il n'y a rien qui est joué, Lille. Lille avec 41 points 5e, Lyon avec 39 points 6e. Et dans le bas du classement, Montpellier 15 points à 4 points de la zone des barrages tout simplement, hein, du Havre avec 20 points et Saint-Etienne avec 19 points. Reims qui se rapproche très dangereusement de cette zone avec 22 points et Reims qui pourrait être barragiste ou pire même à partir de la prochaine journée de Ligue 1. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la première Ligue, hein. Arsenal qui n'y arrive plus avec Merino en pointe, Bukayo Saka blessé, Martinelli blessé et Gabriel Jesus blessé et rien ne va plus du côté des Gunners. On pense qu'ils ont dit adieu, c'est le adieu final pour ce Graal, en tout cas cette année-là aussi. On y revient de suite. Arsenal 0-0 face à Nottingham Forest, Liverpool qui s'impose 2-0, donc Liverpool continue à se rapprocher vers le titre assez aisément hein, face à Newcastle 2-0 et qui compte désormais 13 points d'avance sur Arsenal. On pense que les carottes sont cuites. Chelsea renoue avec la victoire face à la Lanterne Rouge, d'accord. 4-0 face à Southampton. Manchester City s'impose 1-0 dans la douleur face à Tottenham, mais ils assurent l'essentiel. Manchester United réduit à 10, arrache la victoire face à Ipswich, 3-2. Quelles sont vos impressions sur cette journée de Première Ligue, Arthur ?
Moi, personnellement, je regarde que le haut. Et c'était intéressant de suivre Liverpool pour notre prochain adversaire en Ligue des Champions. Et voilà, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce championnat ? C'est qu'il y a des surprises à chaque week-end. Tout le monde peut battre tout le monde, sauf Southampton, bien sûr. Mais... mais voilà.
Southampton ont connu des belles époques aussi.
Ouais, là, bien sûr, c'est là, un c'est bon club formateur.
Que c'est très dur pour eux.
C'est triste, c'est triste. Mais voilà, même voir l'état de Chelsea, voilà quoi, c'est dur de les regarder déjà, c'est dur de croire en eux quoi. Il y a rien à faire et Arsenal, voilà, c'est compliqué quand t'as tous tes joueurs offensifs qui sont sur le carreau, ben t'es obligé d'inventer des choses tout simplement.
Merino en pointe.
Mais oui. Mm-hmm. Et tu n'as plus rien. Mais qu'est-ce que tu veux mettre ? Tu mets des petits de U18, des U17, mais ils ne sont pas prêts.
Cheikh Kenza, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette journée de Première Ligue ?
Sacré genou, en fait. En fait, ce qui me déçoit un peu, c'est Arsenal, parce qu'en fait, on a l'impression qu'à chaque saison, c'est, en fait, ça récidive à un moment donné. Voilà, bon, il n'y a pas vraiment, comme Arteta il a dit non, qu'il n'avait pas besoin de recruter et tout ça, qu'il faisait confiance vraiment à ses poulains. Mais si à un moment de la saison, il y a des blessés, comme tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir se réinventer. Mais de quelle manière, en fait ? De la plus belle des manières, parce que quand on essaie de gagner un titre vraiment qui échappe aux Gunners depuis pas mal d'années, disons depuis plus de 21 ans maintenant, depuis le titre de 2004, les Gunners n'ont rien remporté en fait comme titre majeur. Donc du coup ça commence un peu à grogner du côté des supporters et tout. Il y en a le budget, tout est fait vraiment pour qu'ils puissent renouer enfin avec cette victoire. Mais si à un moment donné de la saison, les premières parties des saisons sont réussies, les deuxièmes moins bonnes, c'est pas en fait comme je disais, ils ont pas une mentalité de winner, c'est des losers. Dans l'âme, et ça, ben c'est ce qu'on constate en fait, oui, parce qu'ils n'aboutissent rien. Donc, du coup, après, il y a eu vraiment City, je suis content pour eux parce qu'ils renouent avec la victoire, avec un Guardiola qui est un peu en ce moment un peu perché, comme on dit, voilà, un peu dans les doutes. Mais,
il est divorcé.
Voilà, mais après, quand on est professionnel, on rime pas sa vie vraiment, sa vie, comme on appelle, sa vie privée à la vie professionnelle. il se doit de faire la partition des choses. Donc,
c'est assez difficile après.
Hein, bah oui, mais qu'on le veuille ou pas, mais quand on est professionnel, voilà, là, ce qui est privé ne doit pas impacter sur nos
compétences.
Voilà, mais comme on le veuille ou pas, étant donné qu'on est humain, voilà, on peut avoir une certaine lassitude au niveau de certaines choses, c'est des émotions. Mais dans le cadre professionnel, il se doit d'être professionnel jusqu'à la fin. Parce qu'on parle de Guardiola, on parle pas de, voilà, de n'importe quel entraîneur quand même.
Donc, il est toujours en tout cas fidèle et marié à Manchester City déjà.
Voilà,
depuis,
c'est ce qui compte le plus important pour lui. Voilà.
C'est ce qui compte le plus. Kenza, c'est bon ?
Oui, c'est bon.
Ok, du coup, on va tout simplement, hein, est-ce que... Arsenal devrait changer quelque chose. Est-ce qu'il devrait se concentrer sur la Ligue des Champions ?
Moi, je veux dire que je trouve que dans son déroulement, je parle pas au niveau des matchs, hein, mais dans son déroulement, c'est le même championnat qu'en France. T'as pas vu que Liverpool, ils ont 13 points d'avance, comme le Paris Saint-Germain. Ouais. Arsenal, ils sont bien assis à la deuxième place quand même si ça va pas très bien.
Oui.
Ils ont quand même
6 points. Marseille.
Ils ont quand même 6 points d'avance pour la deuxième place. Et il y a 3 équipes qui se battent pour l'Europe, comme à peu près comme notre championnat français. Donc Chelsea, Nottingham Forest et puis Manchester City. Hein. Mmh. On l'avait dit il y a quelques semaines que bon, voilà, ils pourraient quand même, malgré une saison très mitigée, chaotique et très mitigée, qu'ils pouvaient quand même aller chercher une place européenne dans le championnat anglais. Donc, dans son déroulement, c'est un petit peu le même type que la configuration du championnat français, voilà.
Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de Liverpool, qui vont sans doute finir champion, ou Manchester United, qui s'impose aussi 3-2 face à Ipswich, hein, qui essaye de...
Ouais, Manchester United, ça fait un moment qu'ils essaient de remonter un petit peu le pavé, hein, quand on a connu le grand Manchester United qu'on a connu, voilà. Mais je pense qu'il faudra encore un peu de temps, quand même, hein, pour qu'ils redeviennent parmi les meilleurs clubs anglais, hein. Voilà.
Le Red Devils, c'est une période de disette qu'on a connue aussi. Liverpool, à un moment donné, voilà, ils étaient un peu le ventre mou du championnat. Ça va prendre du temps.
Ça va prendre du temps. Mais bon, en tout cas, autant il y avait souvent du suspense dans le championnat anglais les années précédentes, des batailles à 2, à 3. Là, il n'y a pas de
suspense. Ces dernières saisons, il n'y en a pas vraiment.
Liverpool,
Arsenal.
Enfin. Non, mais Liverpool, je crois que c'est l'année dernière, il y avait eu quand même un match à 3, Liverpool, Arsenal, Manchester City. Voilà. Là, il n'y a pas photo. Il y a 13 points d'avance pour Liverpool, Arsenal bien assis à la deuxième place. Oui, ils ont 13 points d'avance.
Comme Paris.
Oui, mais un match de plus. Ils vont jouer la finale de la Coupe de la Ligue. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont le match en plus. Ils vont peut-être faire un doublé en plus.
Au minimum, un triplé.
Oui, mais on voit en
triplé, là, je reste un peu sceptique là-dessus. Mais au moins, la Ligue des Champions, c'est.
On y reviendra à la Ligue des Champions chez Kenza, car on va voir. Léo ?
Oui, après, pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Philippe, s'il y a aussi un tel écart de points entre le premier Liverpool et le wagon, on va dire, c'est Liverpool qui se l'est créé tout seul, cet écart. Quand tu regardes, je ne sais pas si vous avez pu voir le match contre Newcastle. Ouais. Newcastle, qui est une des meilleures équipes d'Angleterre cette saison, en tout cas en termes de jeu proposé, d'intensité. Bon, là, il n'y avait pas Isaac, mais c'était une démonstration. Newcastle n'a pas vu le jour. Il y a eu 2-0, il aurait pu avoir 4-5, ça aurait pas été choquant à la fin. C'était maîtrisé, c'était tranquille, c'était du Liverpool tout craché. Faut saluer le travail d'Arne Slot, parce que bon, même s'il y avait déjà du travail qui avait été réalisé en amont par Jurgen Klopp, évidemment, un effectif qui a pas trop changé, lui, c'est sa première grosse expérience. Tu te dois te familiariser avec un nouvel effectif quand même. Donc c'est pas forcément facile, et je pense que tous les entraîneurs n'auraient pas réussi. Donc faut vraiment saluer ça, saluer le travail des joueurs, parce qu'on a encore Salah qui est exceptionnel, mais pas que. Quand tu penses à Szoboszlai, quand tu penses à McAllister, ce sont des joueurs géniaux. Pour moi, tu as la meilleure charnière d'Europe dans l'effectif. Bon, c'est un effectif de toute façon de classe mondiale. Après, si on peut parler de City un petit peu, je pense que là, ils ont posté des vidéos sur les réseaux de Rodri qui va être de retour très prochainement. Je pense que ça va bien les aider pour la fin de saison, parce qu'on parle quand même du Ballon d'Or en titre. Et puis un joueur indispensable au-delà de son Ballon d'Or, on l'a vu ces dernières saisons. Un joueur qui marque, qui est capable de marquer dans les moments les plus cruciaux, comme je pense notamment à la finale de Ligue des Champions là, en 2023. Il y a eu plein de matchs pareil où il marquait en fin de match. Après, Arsenal, voilà, leur erreur, c'est de ne pas avoir recruté cet hiver, je pense, d'attaquants, de se reposer sur des joueurs. Bon, on ne sait pas trop. Hein. Le petit Nwaneri est très, très bon, mais il a 17 ans. Merino, c'est pas un buteur. D'ailleurs, ça se voit dans ses gestes, ça se voit dans ses appels, ça se voit dans plein de choses. T'as Raheem Sterling, qui est pourtant une légende de Première Ligue, hein, on peut dire comme ça, un mec qui a plus de 100 buts en Première Ligue, il n'y en a pas des masses, qui est vachement décevant. T'as Gabriel Jesus, qui est un super joueur, mais qui est jamais là. Enfin, Arsenal, voilà, c'est comme chaque saison, c'est une équipe, tu te dis, bon, bah, ils vont peut-être le faire, et puis arriver à la moitié du championnat, ça tombe, quoi. Ça me fait penser un peu à l'AS Monaco en France, toujours des gros débuts de saison, et puis après, ça s'effondre. Donc voilà, Liverpool va certainement gagner le titre. C'est marrant parce qu'ils avaient, avant 2020, ils ne l'avaient plus gagné depuis 30 ans. Là, ils vont en remporter deux fois en 5 ans. Donc félicitations à eux. Et puis ils vont pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions maintenant aussi.
Aussi, hein, bon, avec 13 points d'avance, je pense que oui, c'est, on peut dire oui.
Arthur. Moi, j'allais rebondir sur le fait que le retour possible de Rodri, et pour moi, ce n'est pas une bonne idée puisque le joueur, il est blessé. Il a une indisponibilité qui était énorme quand on l'a annoncé. Et pour moi, c'est un retour précipité parce qu'ils veulent à tout prix arriver dans les places de Champions League. Et pour moi, ils devraient terminer la saison tranquillement sans lui pour le préparer au mieux pour l'année prochaine. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée de le faire revenir trop vite. Et ensuite, par rapport à Arsenal, pour moi, c'est là que tu vois les champions. En fait, les champions, plus les journées de championnat avancent, et plus c'est dur de maintenir le cap, d'être toujours premier. Et en fait, on voit que même Liverpool, hein, si on regarde bien les dernières saisons, ils se sont toujours, entre guillemets, effondrés, des fois dans des matchs contre City, où à 10 journées de la fin, ils ont commencé un peu à trembler et City a fait le travail. Et là, Arsenal, c'est à chaque fois comme ça. Dans le moment où ils doivent accélérer, il n'y a plus rien.
Après, si je peux juste rajouter un truc sur Arsenal, moi, je me pose une question de plus en plus, c'est jusqu'à quand Arteta va être maintenu en poste. Parce que très bien, il fait un énorme boulot au sein du club, avec son équipe. Mais le problème, c'est que ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'il est là.
5 ans.
5 ans, comme ça. Il a gagné qu'un titre majeur avec une FA Cup.
Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Pour moi, c'est le travail. Mais pour moi, le vrai problème, c'est de cibler. Au bout d'un moment, il doit partir sur des top joueurs. Il doit arrêter d'aller chercher des prospects ou des jeunes à fort potentiel. Pour moi, c'est comme avec le PSG, ils avaient un problème. Cet hiver, ils ont eu la chance de mettre des sous sur Vara et pour l'instant, ça a fonctionné.
Non, moi, je suis d'accord avec ça, mais Arsenal, c'est quand même un grand club en Angleterre. Donc jusqu'à quand, tu vois, sa direction va accepter de ne pas gagner parce que c'est bien d'avoir du jeu. Et si demain, il recrute, parce qu'il voudrait recruter Isaac, visiblement, il y a eu le nom de Jonathan David qui est sorti aujourd'hui, même si je ne pense pas que ce soit un top joueur pour un top club.
Ah bon?
Non.
Jonathan David, tu penses pas que ça peut le devenir dans de meilleures conditions, entouré de plus grands joueurs?
Je pense pas.
Moi, je dirais le contraire, en fait. Avec des gardes et tout ça, des joueurs qui ont la patte, je crois que Jonathan David, c'est une palette de jeu large, en fait. Peut-être que c'est parce qu'il est en Ligue 1 que là, on voit pas vraiment ce fort potentiel, on voit pas vraiment ce super joueur. Mais tu t'imagines que quand Thierry Henry, à l'époque, il quittait la Ligue 1, il n'était pas un...
Non, mais c'est un
bah
bon...
Oui, il n'était pas mieux qu'Anelka à l'époque. Mais on a vu à la fin qu'il a eu la carrière réussie. Donc, en fait, par moment, l'environnement change le joueur. C'est-à-dire que Jonathan David, c'est un professionnel. Donc, du coup, s'il part dans ce genre de club, il sera adapté. En plus, ça lui permettra de rehausser son niveau. Ça lui permettra de travailler. Bon, à force de travail, rien n'est impossible, en fait.
Après, tu prends l'exemple d'Anelka. Mais Anelka, quand il quitte le PSG, il a 20 ans.
Oui, mais
David,
Anelka,
déjà
à l'époque, non,
ans.
Je t'ai dit, à l'époque, quand Thierry Henry et Anelka quittaient ensemble le championnat français, ben, il n'y avait pas photo entre les deux. Mais à la fin, on a vu que la carrière a mieux réussi, en fait. En termes de talent, en fait, au foot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le talent qui compte, en fait. Plus le travail acharné, plus tu te mets dans les meilleures conditions, c'est fort probable que
ouais,
tu réussisses.
Après, par exemple, pour moi, il ne deviendra jamais meilleur qu'un joueur. Un joueur
non, ne le dis pas. Non, ne le dis pas.
Non, si. Il sera jamais dans les très grands numéros 9.
Non, qu'est-ce que tu en dis?
Il ne sera jamais un Lewandowski, il ne sera jamais un Suarez,
non,
il sera
ne
jamais.
Non, ne le dis pas.
C'est trop tôt.
Non, si. À l'époque, certes, on ne peut pas le mettre, mais à l'époque, Drogba, par exemple, quand tu suis la carrière de Drogba, c'est un exemple qui déplace un peu le sujet. Mais Drogba, en fait, il pèse tard, en fait. Drogba, quand il quitte la Ligue 1, il est déjà âgé. Qui aurait misé sur lui
non,
à Chelsea?
Il n'est pas âgé, il a 25 ans.
Oui, mais pareil que Jonathan
David. Mais est-ce que Drogba, il a le niveau d'un Suarez ou d'un Lewandowski?
Ben moi, je te dirais que Drogba, il est meilleur que Suarez. Ça, c'est mon avis. Toi, ça sera ton avis.
Tout à
fait,
tout à fait.
Ben oui, parce que Drogba, il avait une palette de jeu qui était incroyable. C'est-à-dire, Drogba, dans n'importe quelle situation, il pouvait te décanter un match, que ce soit de la tête, que ce soit du gauche, du droite, en fait, que ce soit en phase de jeu arrêté, que ce soit vraiment sur le corner et tout ça. Et ce n'est pas des choses que Suarez avait, en fait. Suarez, c'est juste.
Ah bon?
Non, je t'ai dit, Suarez, c'est. Soares, c'était juste des attaques placées. On compte mais Drogba, mais le jeu tête de Drogba. Le jeu tête de Drogba, Soares l'a pas.
On s'éloigne du débat.
Le jeu tête de Drogba, il faut respecter Soares quand même.
Ça sera un autre débat. Ouais, mais non.
Le jeu tête de Drogba, Soares l'aura jamais. Le jeu tête de Drogba, Soares l'aura jamais. Très peu de joueurs l'auront.
Moi, je vais rebondir sur quelque chose. Les deux, vous deux avez raison sur le fait de Jonathan David, c'est que on peut pas savoir. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Et pour moi, il doit aller dans un meilleur club pour pouvoir continuer à sa progression. Mais la différence, elle est énorme entre Isaac et David. Si Arsenal prend Isaac, il step up. Mais s'ils prennent Jonathan David, il faut encore façonner ce joueur à la Première Ligue. Isaac, il est prêt. C'est peut-être l'un des meilleurs attaquants en Europe. Ouais. Et quand on fait le parallèle avec Lewandowski, mais Isaac, il a peut-être le même niveau que Lewandowski avant de débarquer... attends, il fait quoi déjà
Dortmund.
Après Dortmund.
Il fait la Real
Bayern, exactement. Mais quand on voit Isaac, comment il porte Newcastle, il y a une équipe avec Isaac et sans Isaac, c'est un joueur de classe mondiale.
Moi, j'aurais préféré un profil comme Osimhen, en fait. C'est un attaquant qui me plaît beaucoup.
Non, mais oui, Isaac, il est au-dessus d'Osimhen, franchement. Sur la palette technique, il est largement au-dessus.
Isaac, il n'y a pas mieux aujourd'hui, je pense, en neuf presque.
Biarritz.
Mieux
Ouais.
Biarritz bon. Peut-être.
Il faut attendre deux ans.
On va passer à un autre débat. Ouais,
ça pourrait être très long. Merci en tout cas pour ce petit débat bien animé. On va se faire une petite pause fraîcheur avant de revenir bien évidemment avec la Ligue des Champions, avec les matchs à venir, le Paris Saint-Germain qui vont accueillir Liverpool à domicile. Le Paris Saint-Germain peuvent-ils créer la sensation de cette journée de huitième de finale avec aussi Lille qui iront à Dortmund. Bref, on y revient tout de suite.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
Non, mais au contraire, excusez-moi, on revient tout de suite dans le live. Vous savez, c'est des passionnés de football, donc ça ne s'arrête pas et ça continue même en off. On va enchaîner avec la Champions League, comme on disait si bien. Paris Saint-Germain face à Liverpool à domicile. On va commencer par toi, Philippe. Qu'est-ce que t'en penses? On est tous excités de ce match. On l'attend.
Parce que sincèrement, c'est peut-être les deux meilleurs clubs d'Europe actuellement, avec peut-être le Real, un peu moindre actuellement. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'ai envie de dire que s'il y a une équipe qui battra le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà. On sait que le Paris Saint-Germain, ils ont toujours eu le tort de rater des matchs importants à des moments décisifs. Hein, on peut citer des tas d'exemples. Chelsea, deux fois le Real de Madrid, Barcelone, Dortmund l'année dernière, Manchester United. Donc voilà, c'est le Paris Saint-Germain. S'il y a une équipe qui se saborde, c'est le PSG. Donc est-ce qu'ils ont cette année, avec ce nouvel état d'esprit, est-ce qu'ils auront la dimension pour pouvoir justement bien gérer l'événement? Ça va être tout le problème. Après, ça va être un match spectaculaire. On ne peut pas faire mieux. Actuellement, donc si Paris Saint-Germain répond à l'événement, ça sera jouable. Si Paris Saint-Germain, comme il a coutume de faire, ne répond pas à l'événement, ce sera Liverpool. Mais je mettrai quand même un tout petit chouïa quand même pour Liverpool. C'est un petit peu plus complet quand même que le PSG actuellement.
Merci Philippe. Tu penses la même chose, Arthur?
Pour moi. La question, elle est toujours la même sur le PSG, c'est que l'année dernière également, on peut aller en finale parce que Dortmund c'est en dessous de nous. S'était déjà saboté en poule où on aurait dû les taper sur le dernier match de poule pour passer dans l'autre partie du tableau. Malheureusement, on s'est fait caca dessus comme d'habitude et pareil. L'année dernière, je ne vais pas reparler de l'année dernière, mais cette année, encore une fois, il y a des matchs que tu domines et que tu dois gagner, comme l'Atlético, et tu ne le fais pas.
Ouais.
Même s'il n'y avait pas
comme
encore
le Bayern,
Vara,
même à 10 contre 11.
Exactement.
Oui, pareil, mais... Alors bon, là, ils vont mieux quand même. La confiance, elle est revenue, ils vont mieux. Bon, voilà. Mais
pour moi, le match-up entre PSG et Liverpool, c'est le match-up parfait pour Liverpool parce que c'est une équipe de transition. Et pour moi, le PSG, c'est... Enfin, tout le monde sait que c'est une équipe de possession. Et pour moi, c'est comment on va voir notre comportement à la perte de balles, si ça va fonctionner ou pas. Parce que quand on regarde le but qu'on s'est pris la dernière seconde contre l'Atlético,
c'est une transition.
Transition. Et la défense, elle est, je pourrais même pas te dire comment elle était, c'était caca-culotte quoi.
C'est de l'assist en fait, voilà. Ouais.
Exactement.
Et attention sur les coups de pied arrêtés, parce que le PSG prend beaucoup, beaucoup de ses buts sur coups de pied arrêtés. Ouais.
Et on
beaucoup.
A vu un Konaté, Virgil van Dijk. Attention. Il y a des joueurs de tête côté Reds.
Voilà, c'est ces petits détails qui font que
des joueurs qui savent les tirer aussi.
Exactement. Et t'as un gardien qui est mauvais aussi.
Alexander Arnold aussi, qui sait tirer les coups francs.
Même Robertson, ça va bien.
Que ce soit les deux côtés qu'on a au coup franc ou au coup de pied arrêté aussi, il faudra que le PSG en fait, pose des exigences. Mais vu vraiment Luis Enrique, qui est un tacticien, en fait, qui a une belle lecture du jeu, tout ça, qui voilà, un peu, voilà, dans les sillons un peu de Guardiola, qui sait bien analyser les matchs et tout.
Oui, mais c'est la gestion de l'événement.
Pour lui, le moins d'état devra compter aussi. Parce que quand on regarde les compos pour voir l'équipe, voilà, on a Donnarumma, on a Kimi, on a Marquinhos en capitaine, on a Pacho. On a Nino à gauche, on a João Neves, on a Vitinha, on a Fabien Ruiz, comme d'hab. On a Doué, moi j'aurais préféré Cavachera à Doué, mais on a Doué, on a Dembélé, on a Barcola. Peut-être ça va changer ou pas, mais je crois que vraiment le PSG une carte à jouer. Ça, c'est, moi je crois que ça serait vraiment l'adversaire vraiment idéal voilà, pour voir vraiment le véritable niveau de cette équipe.
Ah bon, on va le voir, hein. Je te dis, le meilleur danger du PSG, c'est le PSG.
Comme on l'a vu.
C'est le PSG, là c'est Liverpool.
Non, mais là, mais je veux dire que si le PSG, parce comme tu PSG... dis, se chie dessus comme ils l'ont fait régulièrement, s'ils se sabordent.
Mais je crois pas, cette année, on a une équipe qui a le mental.
Mais on disait ça avant, pareil.
C'est pas le mental.
Non, moi, ce qui pourrait pencher un peu.
C'est la gestion de l'événement, c'est pas le mental, c'est la gestion de l'événement.
Moi, ce qui pourrait pas changer, c'est le match
retour. Il y a un adversaire aussi. On parle beaucoup du PSG.
Oui, mais enfin, à un moment, les matchs, tu dois les gagner.
Je vais parler juste des lacunes. Hein. Pour moi, le gardien, c'est le même. Oui. Toujours le même gardien qui a des
ça
problèmes.
Ça fait partie de la gestion de l'événement.
Oui, mais il a toujours le même problème sur les sorties aériennes. Deuxièmement, on parle de prendre des ballons de la tête. Je suis désolé, à part Marquinhos, qui prend des ballons de la tête en défense. Et Pacho, c'est un défenseur central. Moi, c'est ça qui me choque. C'est un super défenseur, mais il est mauvais de la tête, il prend rien du tout. Beraldo, c'est pareil. Lucas Hernandez,
Beraldo,
il est dans quel état
partout, mais oui. Si tu veux Beraldo, mais t'as perdu d'avance. Exactement. Hein, je te le dis.
Donc pour moi, ça va jouer sur la qualité. Le collectif est meilleur que la saison dernière.
Oui.
Et Vara, c'est un énorme plus parce qu'il faut voir depuis que Vara est annoncé au PSG le retour en forme de Barcola et notre montée en puissance, parce que depuis qu'il est là, on parle de Désiré Doué, mais Vara, pour moi, il a fait énormément de bien à l'effectif, même quand il est sur le banc, même quand il joue 60 minutes, il fait du mal parce qu'il y a trois mecs à surveiller devant, alors qu'avant, il n'y en avait que deux.
Oui, non, c'est sûr.
Ce sera pour moi une découverte, encore une fois, si le PSG pourra passer un cap cette année.
Mais on va voir si cette génération-là, justement, ce collectif-là, il est capable de, enfin, de se mettre dans l'événement. Voilà.
Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'aspect défensif des Parisiens face à Liverpool. Comme on l'a dit tout à l'heure, concernant les transitions et tout ça. Parce que devant, ça va vite. On n'oublie pas que vraiment... Et Liverpool, au milieu de terrain aussi, dans l'enjeu, ça sera costaud. Parce qu'il va falloir du répondant de ce côté-là. Parce que quand on regarde Liverpool, c'est une équipe en fait qui peut jouer en transition rapide, qui peut aussi avoir la possession, voilà, qui peut faire mal à tout moment. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des atouts que le PSG n'a pas, en fait. On aura beau avoir des flèches, Dembélé dans la forme qu'il est aujourd'hui, c'est une flèche en fait. On sait quand Dembélé est en forme, tout lui réussit. Hein. C'est-à-dire si un éclair, un génie, ben, il est capable de...
Les trois sont dangereux.
De mettre la défense de Liverpool en difficulté, ça on le sait. Parce que le côté d'Arnold...
Liverpool aussi encaisse régulièrement des buts.
Et en plus, le côté d'Arnold serait un peu plus faible à celui de Robertson. Parce qu'Arnold, quand il monte... Il a du mal aussi
Même quand il est là, c'est difficile.
Si ton caisse, c'est que t'en marques plus que les autres, le Brésil, ils ont été champions du monde comme ça à une certaine époque. Hein. Il y a très longtemps, hein. C'était dans leur culture. Hein. Bon, voilà, après...
Après, je pense que... Moi, je me pose une question, c'est... quel compo va aligner Luis Enrique? Parce que... Il pourrait faire comme il a fait récemment, je crois que c'était contre Brest en barrage, de mettre Doué au milieu avec Barcola, Ukvara, Barcola, Dembélé devant... Pour autant, moi, je pense que ça, c'est quelque chose de risqué face à Liverpool parce que leur milieu de terrain, ils t'imposent un pressing de tous les instants. Et du coup, je ne serais pas étonné s'ils décidaient de soit mettre Barcola sur le banc, soit Doué pour renforcer son milieu avec Fabien Ruiz, parce qu'on voit qu'il l'aime bien, Fabien Ruiz. Alors après, on en pense ce qu'on veut.
Donc 4 minutes.
Oui, il aime bien faire
un 4-3-3, ouais, mais d'accord, avec Doué ou Barcola sur le banc pour démarrer, en tout cas. Ou Guevara, si... même si je pense que Guevara, il sera titulaire et il doit être titulaire. Oui. Mais je pense qu'il va avoir, il va vouloir renforcer son milieu.
Non, pour moi, Barcola aussi, il doit être titulaire. Hein. En vue de ce qu'il me fait dernièrement, mais là, Barcola, tu dois le mettre titulaire.
La compo pour Bob, il n'y a, pas Varane, il y a Doué, Dembélé, Barcola devant, en fait.
Ok, donc
il peut mettre même Lee Kang-in. On connaît Lucien
Riquet. Oui, on le connaît, mais c'est de
ce coup-là. Non, mais je suis d'accord avec toi.
Plus,
mais
il n'y a pas tant de ce coup-là.
Lee, en faux neuf, non, je déconne.
Je pense que là, la question, c'est pas est-ce que le PSG aura la qualité technique nécessaire pour répondre à Liverpool, c'est est-ce qu'il aura la qualité physique pour répondre. Parce que c'est une équipe de... qui va t'imposer 90 minutes de...
d'impact. Voilà, d'impact.
Non, mais c'est pour ça que, si vous regardez bien, depuis plusieurs semaines, il essaie de faire revenir rapidement Zaïre Emery pour, je pense, qu'il le fasse jouer le plus possible parce qu'il en aura besoin dans l'entrejeu. Pour moi, on peut tenir si on a Zaïre Emery, enfin, au top, avec comment il s'appelle, João Neves dans le milieu de terrain.
Ça fait deux mecs. Aussi.
Oui, oui. Ah oui, mais quand tu as les deux mecs avec cet abattage physique et cette résistance à l'épaule, pour moi, ils vont résister au milieu de Liverpool.
Mais tu vois, tu parlais de Rodri tout à l'heure. Je suis pas sûr que le faire revenir Zaïre Emery mercredi
toi,
mais je suis peut-être la semaine prochaine.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, Zaïre Emery, il est indispensable pour moi en Ligue des Champions. Il faut un mec, un deuxième mec résistant dans le terrain.
Court, un mec qui met
exactement.
Après, je pense que le salut du PSG, il passera par un gros match au Parc. Parce que si tu les laisses espérer là-bas,
non, pour moi, c'est deux gros matchs. Tu peux pas.
Non,
faire qu'un
évidemment.
Seul match.
Évidemment, faudra pas un très bon PSG, faudra un excellent PSG pendant 120 voire plus
180
voire 180, voire 210
minutes. C'est le problème du PSG, voilà, ils font jamais deux gros matchs. C'est ça le problème.
Mais si t'arrives
à répondre à l'événement, c'est ça le
problème. Si t'arrives à envoyer un message au match aller. On ne sait jamais. Hein,
un message fort comme tu avais envoyé face au Barça, 4-0 à domicile.
Ouais, mais ils n'ont pas fait le deuxième match.
Pour la remontada, je crois qu'il y a le raid d'habitage aussi.
Je pense que ça va passer par un énorme match déjà à domicile. Tu vois.
On les a déjà fait, les énormes matchs à domicile dans le passé, mais on n'a jamais fait de deuxième match. Nous, on n'est pas prêts. Quand il y a deux semaines, trois semaines entre, on n'arrive pas à gérer l'événement.
C'est ça le problème. C'est l'événement, c'est la gestion de l'événement pour Paris.
Mais on n'arrive pas à gérer. Parce qu'on dit toujours que c'est des grands joueurs, mais quand on parle de Curtis Jones, on va dire que c'est un joueur, il est inconnu au du grand public. Mais le gars, il fait le taf. Le gars, il est titulaire, il est dans la rotation. Et on en sent certains joueurs. Ouais. Exactement.
Sposley,
on n'en parle pas de ce joueur-là. Et pourtant, il est incroyable. Luis Diaz, on n'en parle jamais des mecs de devant de Liverpool. Et pourtant.
Gakpo aussi.
Ouais, voilà, exactement. Mais le banc, l'effectif de Liverpool, il est stratosphérique. Eux, ils peuvent plier un match.
Mais je crois que le PSG aussi a du mal à voyager. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est... En fait, ce n'est pas le match au Parc. C'est le match à Anfield. Là, c'est un enfer, en fait.
Moi, je pense qu'il faut prendre petit à petit.
Si Liverpool vient gagner au Parc 1-0...
Sincèrement, si j'ai un pronostic à donner, demain, Liverpool et au Parc, ils ne font pas le match qu'on pense. Parce que oui, quoi qu'on le dise ou pas, le PSG d'Antam va les faire douter un peu. Oui, je crois que le PSG d'Antam peut les faire douter. Moi, je vois plus peut-être un 2-1, mais le retour en fit, ça serait un enfer. Je vois une victoire.
Liverpool qui n'ont pas des bons souvenirs en France, hein, en finale de Ligue des Champions, qu'ils ont disputé notamment.
Vous étiez tout petit, mais moi, j'étais au Parc 3-0 en Coupe de Coupe.
Oui, en 97.
Ouais, en Coupe des Coupes, 3-0 et 2-0 match retour à Liverpool. Ouais.
De toute façon, c'est une chose dont on peut être sûr, c'est que Liverpool, c'est pas une équipe, même si elle gagne 1-0 au Parc, qui là-bas, on ne va pas faire le bus.
Exactement.
Qui perd. Ils vont. Peu importe le résultat, même si mercredi ils gagnent 3-0 au Parc, au retour, il faudra s'attendre au même match que ce sera à l'aller. Tu vois.
Mais je ne le vois pas vraiment gagner au Parc. Moi, je vois vraiment le PSG faire le taf. Mais le match retour, ça serait compliqué en fait. Parce que, comme on le dit, chaque Anfield, c'est un enfer.
Mais c'est même pas l'ambiance en plus à Anfield. Même si l'ambiance est très grande.
Non, c'est pas l'ambiance,
sympa.
Mais en fait,
c'est le.
Quel environnement.
Voilà, en fait,
c'est l'environnement.
C'est
Anfield,
voilà,
quoi.
Et puis, il y a une âme, c'est en fait. Il y a une âme, t'as comme l'impression qu'en Anfield, les joueurs de Liverpool, ils sont transcendés. En fait, t'as comme l'impression que en fait, tu joues une équipe qui est injouable. En fait, je sais pas, il y a quelque chose. Rares sont les équipes qui gagnent en Anfield.
Bah, c'est...
Voilà, c'est en fait c'est.
Bah, les supporters le disaient, hein, ils disaient que il y a un fameux brocoli qui leur fait peur. On a vu en parlant de Barcola, hein, il a confondu, il a dit brocoli, mais il disait c'est un bon joueur, mais que nous on est confiant à 100% à Anfield. À Anfield, on sait qu'on va faire le taf. Du coup, au Paris Saint-Germain, même si on a un match nul, on sera pas inquiet parce qu'à domicile,
voilà,
on sait
c'est pourquoi
on
le
va pousser et que ça va être monstrueux. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'ils.
C'est pourquoi Paris doit jouer toutes les cartes de main sur table. Et vraiment avec une stratégie, voilà, une stratégie vraiment de, voilà, de winner, quoi. On y va, c'est la gagne ou rien. On ne paie pas, pas de nul. On se met les moyens dans la tête. Un match, ça se prépare
c'est
psychologiquement.
Oui,
c'est vrai qu'on verra.
Mais un match, ça se prépare psychologiquement. Bah, oui, on a vu des équipes qui ont sorti des gros.
Non,
mais
non, bah, Liverpool, non. C'est vraiment
non,
top 2.
Non,
de...
on sait actuellement. Oui, comme on le dit, actuellement, c'est les tops. Même les tops, on les fait douter par moment, en fait. Au football, si déjà tu t'es dit que t'as perdu d'avance, ça sera rien d'y aller,
non,
en
ça,
fait.
On est
oui, c'est un combat.
Mais ça,
donc, mais qui sont meilleurs ou pas, nous aussi on est meilleurs, en fait. On est meilleurs dans l'optique où on se dit que on a les quatre pour les battre et à nous de les faire déjouer, c'est tout. Mais oui, ça se passe psychologiquement.
C'est pas aussi simple.
Oui, c'est pas aussi simple comme on le dit. Mais si le mental a atteint, ben, ça sert à rien d'y aller.
Bah,
voilà, il faut se forger un mental.
Là.
Il faut se forger un mental en se disant qu'on va les faire douter. On est là pour les faire douter. Ben, on s'en fout qu'il y ait un Momo Salah, qu'il y ait quoi que ce soit. Nous aussi, on a notre collectif, on a notre équipe. On sait pourquoi on est là. On n'est pas là parce qu'on a envie d'être là.
Sauf que le problème, c'est que Liverpool, ils se disent exactement la même chose.
Et après, c'est dans l'inconscient.
Mais voilà, mais à nous maintenant, à nous maintenant de faire le taf, à nous maintenant de se donner à 200%, à nous maintenant d'avoir un repli défensif, à nous maintenant, voilà, il faut que les joueurs aussi se parlent d'eux, en fait. Parce que là, c'est un match capital. Si tu sors Liverpool là, tu te dis que ben, tu te feras un chemin, voilà. Non,
après,
là,
tu peux sortir Liverpool et te faire taper par le Real en quart.
Oui, mais je sais pas, mais si tu sors Liverpool là, tu te dis que les autres, ils auront peur, en fait.
Parce
que là,
tu sors.
Au Bruges ou Aston Villa en quart.
Mais là, si tu sors le Real, il y a l'Atletico, il y a. Attention,
si tu sors Liverpool, ben, les autres, ils sauront vraiment que voilà, mais t'as fait le taf. T'as fait comme
merci, Cheikh Kenza. On va appeler Lucien Riquet hein, pour lui dire qu'il faut que tu te recrutes dans l'équipe. En tout cas, pour ce match-là, pour
mental.
Que tu. Voilà, préparateur mental pour que tu les boostes un minimum juste avant le match. Et on espère qu'avec ta tactique, ça va le faire. Hein. Bien évidemment, on va enchaîner avec les autres matchs. Hein. Le PSV Eindhoven avec Arsenal. Arsenal, PSV Eindhoven. Bon, on pense que c'est un match déjà plié. Dortmund-Lille.
Mais pour qui, attends, tu dis ça
ouais, pour
plier pour qui? Puisque sans attaquant, tu fais comment?
PSV Arsenal. Ah, moi, j'ai dit que si PSV sortait l'Arsenal, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Okay. Je l'ai donné dans l'émission juste avant.
Okay.
Mais voilà, mais après, c'est vrai, ça ne serait pas plié. Ouais. Voilà, mais ouais. Moi, en tout cas, PSV peuvent faire le coup,
ah,
moi, je pense.
Excuse-moi, juste pour un dernier truc sur PSG-Liverpool. Liverpool n'a pas joué ce week-end non plus.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ça fait, à ce niveau-là, trois jours de plus, c'est énorme.
Mais après, ils se déplacent.
Ouais.
Du coup, Dortmund-Lille, quels sont vos favoris et...
Mais attends, je vais revenir sur un truc. PSG
a
joué 35 minutes, attention. Ils sont frais aussi, hein. Ils ont fait un petit match
un petit
d'entraînement,
taureau, là,
voilà,
un petit
exactement.
Taureau, là.
Donc, vas-y, continue.
Attends, je vais revenir sur...
Non, c'est bon.
Sur l'émission
du
d'hier.
Coup, c'est choc, hein, c'est sûr que...
Du coup, Dortmund-Lille...
Bah, c'est du 50-50, hein.
C'est du 50-50
ah,
pour
ouais,
toi
ouais, parce que Dortmund, bon, c'est pas... On sait, je crois qu'ils sont combien 8e du championnat
9e
du championnat allemand. Ouais, bon, ouais. Donc, pour moi, ça peut être du 50-50. C'est jouable pour Lille. Hein. Le coup est jouable. Le coup est jouable.
C'est jouable pour Lille, oui, mais vraiment, quand on regarde de la manière que Dortmund y sort le tout possédant, en plus, je l'avais dit sur le plateau, j'avais dit en fait que ce sont des équipes vraiment qui savent gérer cette compétition, en fait. C'est ce qui va manquer un peu à Lille, parce que Dortmund, même s'ils sont moyens en championnat, en Ligue des Champions, tu t'imagines qu'avec Guirassy qui enfile les buts, ça dit qu'un coup d'éclat, une action, Lille peut faire le match qu'il veut, il peut aller, il peut faire, mais ça va se jouer au minimum près, en fait, à l'expérience près, comme on dit. Et l'expérience, ça coûte beaucoup en football.
Après des saisons comme a fait Dortmund la saison dernière, tu les refais pas en général deux années de suite. Hein.
Ouais, tu
donc
pas,
tu les refais pas deux années de suite. Hein. C'est-à-dire,
et Lille font vraiment une très belle campagne
des
champions.
Donc, pour ça, c'est très, ouais, ça va jouer pas grand-chose.
Après,
mais c'est un gros morceau aussi. C'est un morceau qu'on n'avale pas du d'un coup.
L'important pour Lille demain, c'est de quitter le Westfalenstadion sans avoir pris une valise. Parce que Dortmund, c'est une des meilleures équipes de Bundesliga à domicile, il me semble la quatrième, mais c'est une des pires équipes à l'extérieur. Donc s'ils arrivent à ressortir avec un écart d'un but ou un match nul, ou même une victoire, à Pierre-Mauroy, si tu gères bien le truc, tu peux peut-être t'en sortir. Pour moi, c'est une rencontre équilibrée.
Oui, c'est équilibré.
Mais demain, faudra pas sombrer non plus en Allemagne.
Merci Léo. Arthur, pour toi, Dortmund-Lille.
Franchement, ces deux équipes, c'est indéchiffrable. Franchement, si quelqu'un peut me dire qui va prendre le dessus de l'autre, parce que Lille, comme tout le monde l'a dit sur ce plateau, on fait une très bonne campagne. Ouais. Là, j'étais en train de regarder Dortmund, on connaît, hein, c'est une équipe qui prend énormément de buts, enfin, qui en marque, mais surtout prend un ou deux buts contre n'importe qui. Et Lille, en termes de stats, c'est pas une équipe qui marque énormément de buts, même s'il y a eu des matchs clutch contre Feyenoord et je sais plus, je crois de Saint-Etienne où ils ont mis 4 buts. C'est une équipe qui met pas énormément. Donc faut voir hein, le turnover, comment certains joueurs vont se révéler. Hein, Boadi, le petit Boadi.
Jonathan David.
Voilà, Jonathan David. Eh oui, on l'attend en Côte d'Ivoire. Hein. mais voilà, ça va être un match intéressant à suivre. Et voilà.
Merci. On va enchaîner. Hein, on va essayer d'être le plus concis possible chez Kenza. Hein, on va commencer par toi.
Danser, ouais.
Bien évidemment, Real Madrid contre l'Atlético de Madrid.
Alors là aussi.
Ça, c'est un derby, en fait. C'est un derby. Le derby de Madrid. Voilà. Bon. Je crois que le Real aussi est un peu décevant ce week-end, mais Ancelotti, je ne sais pas. Je crois que vraiment, le Real a les cadres, vraiment, parce qu'ils savent, jouer cet Atlético-là. Surtout en Coupe d'Europe, rassemble les fois où l'Atlético les a battus. C'est pas comme en championnat, le Real aussi, ils savent se déplacer, en plus à les porter, c'est même si c'est l'Atlético, c'est le cholisme, comme on le dit, faut s'attendre à tout avec voilà, avec le cholisme, voilà, on n'en est jamais surpris, il y a un sort lot vraiment qui est sur un nuage en ce moment, tout lui réussit, donc on aura en tout cas un bon match.
Julian Alvarez aussi hein.
Bah oui, on aura un bon match, mais je crois que le Real a les cadres pour les battre. Parce que vu le tour précédent, ce qu'ils nous ont montré face à City, même si on avait un City malade, mais je crois que ce Real-là a un tout petit peu un ascendant face à l'Atlético. Mais on aura une belle prestation, un bon match de football.
Merci, Cheikh Kenza. Arthur, toi, tu n'étais pas trop d'accord avec les dires de Cheikh Kenza.
Pour moi, c'est trop simple de dire que le Real va venir à bout tranquillement de l'Atlético. Pour moi, ça va jouer vraiment même dans les 10 dernières minutes du match retour pour moi. Ouais. C'est une équipe qui est chiante. Le Real, c'est une équipe de fulgurance. Et moi, j'allais dire que ce match va se jouer sur les replis défensifs de Vinicius, de Mbappé. Pour moi, si ces mecs font le taf, pour moi, le Real, ils peuvent être tranquilles. Mais si ces mecs-là ne défendent pas, ne courent pas, ça va être très compliqué. Voilà.
Merci, Arthur. Léo ?
C'est un match indécis parce qu'on connaît le Real. Une équipe qui est capable de renverser n'importe...
Mais l'Atlético aussi. Hein.
Mais l'Atlético aussi, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ce sont deux équipes qui ont leurs qualités, leurs défauts. Même si en ce moment, le Real... En plus, ils ont beaucoup de blessés en défense, notamment. Donc forcément, face à une équipe qui a des joueurs, des attaquants qui sont en pleine réussite, c'est préjudiciable. Après, même si Vinicius est moins bon, Rodrigo et Mbappé sont eux très très bons récemment. Mais l'Atlético, on les cantonne souvent, tu sais, une équipe qui pose le bus et tout ça. Mais quand tu regardes leur saison, même en général, puis si tu regardes plus récemment, ils en ont collé 4 au Barça à l'extérieur. C'est pas rien, surtout au Barça actuel. Je pense que ça va être une double confrontation très équilibrée. Que le résultat de demain ne voudra pas dire que l'Atlético ou le Real gagne demain, ça ne voudra pas dire que l'Atlético se qualifiera ou que le Real se qualifiera. Que l'avantage du terrain, pour moi, il n'a pas grand sens dans cette confrontation. Mais que effectivement, l'aspect physique et puis l'aspect tactique aussi, parce que on peut penser ce qu'on veut d'Ancelotti et de Simeone, ce sont des mecs. Qui ont énormément de vécu, qui savent faire avec ce genre de rencontres, donc ça va être intéressant. Ça va être, je regrette quand même qu'on ait des rencontres comme le Bayern inter-championnat, intra-championnat pardon. Moi c'est
dès les huitièmes,
Dès les huitièmes, ça aurait été plus sympa de le voir plus loin pour avoir encore plus d'enjeux. Mais non, ça va être de belles rencontres, c'est sûr.
Mais attends, je vais revenir sur un truc parce que je voulais regarder le calendrier de où va se jouer le match retour et c'est
au Metropolitano.
Exactement.
Exactement.
Terrifiant. Pour moi, là-bas. Ça joue beaucoup. Ouais. Parce que moi, franchement, le Real chez eux, c'est injouable. Pour moi, même demain, je les vois capables de les battre. Ouais, exactement. Pour moi, ils sont injouables à Madrid. Mais, enfin, à Bernabéu. Mais à l'extérieur.
Ouais, le Real, cette saison, c'est 24 points perdus à l'extérieur.
Ouais, mais surtout, l'Atlético, c'est là qu'ils pourront faire leur miracle, entre guillemets. Pour moi, chez eux, il n'y a pas mieux.
Honda, oui. Au Rwanda, vraiment, il se la joue là-bas.
Ah oui, et aussi, franchement, le niveau des défenseurs actuellement au Real, franchement, s'ils ne mettent pas Asensio titulaire.
Mais je crois que demain, il sera là.
S'il met à là-bas, par contre, il n'y a pas.
Ouais, s'il met... Non, mais Rudiger, le match catastrophique qu'il a fait ce week-end, c'est scandaleux.
Mais à là-bas, c'est encore.
Ouais, c'est va là-bas. C'est va là-bas.
Mais à là-bas, il est blessé en plus. Je ne comprends pas, Ancelotti. Déjà, tu es un défenseur. Voilà, tu as Asensio. Non, mais même quoi qu'on dise, tu as Asensio vraiment qui est en train de monter en puissance.
C'est Kenza très rapidement, s'il te plaît.
Tu es un défenseur de la Réunion, tu ne peux pas te permettre. C'est bon, c'est Kenza. Mettre n'importe qui, vraiment, pour nous faire peur.
Merci.
Qu'est-ce que tu penses de Suarez et Drogba?
Non, du coup, c'est vrai que c'est vraiment très indécis, hein, je suis d'accord avec tout le monde. Et si ça se finissait au tir au but, comme Manchester Real l'année dernière?
Et bon, on prend une séance de buts
c'est vrai
interminable.
Que le Real doit pouvoir gagner à Bernabeu, et puis le retour, c'est le même score, 2-1-2-1 par exemple.
Et 0,
hein. Après prolongation, et puis on finit au tir au but. Ça peut... C'est vraiment une partie très, très, très indécise.
Il y a des qualités. Sympa les tirs au but au Rwanda Métropolitano.
Ouais, ouais. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Tellement Courtois c'est indécis, tellement c'est serré. C'est vrai que c'est.
Il y a non, des... pour moi, Courtois, il est meilleur.
Il y a des opportunités des deux côtés. Hein, donc, il y a des opportunités des deux côtés. En plus, il y a beaucoup de Français des deux côtés. Donc, c'est bien. Hein. Mbappé contre. Donc, avec Tchouaméni. Et puis,
Kamavinga
contre Griezmann. Donc, c'est bien.
Ferland Mendy aussi.
Oui, en plus. Donc, ouais, c'est vraiment. Là aussi, c'est du 50-50. Et peut-être un final au tir au but, oui.
Merci Philippe. En tout cas, on prend vraiment tes conseils parce qu'on sait que dernièrement, tu as eu pas mal de bons pronos. Hein, donc, on va suivre. Bah, on va rester avec toi, Philippe. Qu'est-ce que tu en penses aussi du Benfica Barcelone et en même temps Bayern Leverkusen? Est-ce que Benfica peuvent réaliser l'exploit après avoir perdu 5-4 à domicile en menant 4 buts à 1? Est-ce qu'ils peuvent les faire douter?
Je pense pas, là. Je pense que Barcelone, je veux pas dire qu'il y aura pas de, il y aura pas photo, il y aura pas de problème, mais je pense que Barcelone est quand même au-dessus et je ne vois pas Benfica sur l'ensemble de ces deux matchs.
Créer l'exploit.
Oui, créer l'exploit.
Voilà. Merci.
Et puis Bayern de Munich, Bayern Leverkusen, c'est pareil. Leverkusen, c'est plus le Leverkusen de l'année dernière. Je pense que le Munich devrait s'en tirer.
Mais attention, hein, ils auront posé des problèmes cette saison avec un 0-0 à domicile.
Mais là, c'est sur deux matchs. Hein.
Oui.
Donc, la donne peut être un peu différente.
Ok. On sait que Celtic ont posé pas mal de problèmes au Bayern de Munich. Oui, qu'est-ce que t'en penses, toi, Léo? Tu penses que Bayer Leverkusen peuvent créer un petit exploit, si on peut dire ça comme ça?
Sur le déroulé des matchs, je sais pas, mais je pense que sur la qualification, le Bayern va s'imposer. Et je serais même d'avis que... Il serait bien inspiré d'envoyer un message à l'Allianz Arena parce qu'on sait que le Bayern, il y a une époque pas si lointaine, quand tu allais à l'Allianz Arena, en match même à élimination directe, tu savais que tu allais prendre la tempête, que tu allais en prendre. Je me souviens de Salzbourg en 8e il y a quelques années, qu'on avait pris 7, tu as Chelsea qu'on avait pris 5, tu as même cette saison, tu as le Dynamo Zagreb qu'on a pris 9, mais bon, c'était en phase de poule. Moi, je pense que si tu dois envoyer un message à un moment. Et face à un adversaire, c'est face au Bayer Leverkusen à domicile. Pour ça, je pense, et pour les qualités d'effectifs, pour les formes actuelles, je pense que le Bayern va s'imposer.
Ouais. Merci. Cheikh Kenza, Bayern, et tu t'es pas
expliqué. 17-38, je crois, le Bayern.
Ouais. Ouais. Benfica, Barcelone, très rapidement, Léo.
Je pense que le Barça va s'imposer, même si le match là-bas va pas être une partie de plaisir, parce que de toute façon, un match à l'extérieur n'est jamais une partie de plaisir. Mais le Barça est en forme quand même. Là, ils ont, c'est la meilleure attaque d'Europe. Ils ont une profondeur d'effectif. Je pense que Flick, il va apporter beaucoup de choses. Sur on parlait tout à l'heure du mental. Je pense que c'est une équipe très jeune qui a pas beaucoup d'expérience, mais Flick, justement, il est là pour apporter ça. Donc, en tout cas, face au Benfica, ça ne devrait pas poser trop de problèmes.
Merci. Moi, je veux bien revenir sur Flick. Hein. Attention, Flick, on attend à ce qu'il apporte exactement ça auprès des joueurs. Mais on voit que, par exemple, on reviendra juste après avec la Liga, on voit que le Barça ne retient pas la leçon avec l'Atlético de Madrid. Hein. On a pu voir qu'ils se sont fait piéger encore une fois en Coupe du Roi. 4-4 avec un match géré en avance. Est-ce que ça ne pourrait pas leur faire défaut là face au Benfica? Benfica qui s'était fait remonter 5-4, mais qui avait dominé une bonne partie du match et qui menait 4-1. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur?
Pour moi, Franchement, c'est très difficile avec la façon en fait de jouer de Flicks, puisqu'il ferme jamais le match. Il est toujours ouvert. Il y a énormément de turnover dans l'effectif à autour de 60 minutes. Il fait rentrer déjà une deuxième équipe, un autre plan de jeu, comme on l'a vu toute la saison. Pour moi, on verra parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on parle de huitième de finale. Hein. On a l'impression qu'on a eu énormément de matchs et tout, mais c'était des matchs de premier tour, entre guillemets. Et là, on va vraiment voir sur toutes les équipes où elles en sont véritablement. Par exemple, là, on parle de Bayern-Leverkusen, et pour moi, je vois bien le Leverkusen passer.
Ah bon?
Pour moi, ils font pas une aussi mauvaise saison que ça.
Pas sûr de match.
Et pour moi, franchement, c'est dans le contenu, c'est très, enfin, ils sont très en difficulté le Bayern pour plier ces matchs.
Simplement sur le Benfica, faut rappeler aussi que dans un monde normal où tu as un attaquant à Monaco qui s'est marqué des buts, le Benfica, ils sont pas là non plus, quoi.
Exactement.
Oui. Oui,
mais bon, avec Lessi, on refait le monde, bien évidemment. Voilà. C'est pas...
Comme on dit à Lessi, le menuisier l'utilise que pour couper le bois. Donc...
on aime bien tes petites punchlines, chaque Kenza.
On va s'en passer cette fois, mais je crois que vraiment, voilà, Benfica, ouais, ça a été un peu coup de chance. Mais face à Barcelone, ils seront vraiment en difficulté. Ça sera un match, je crois que Barcelone peut s'imposer. Et ils doivent s'imposer normalement dans les normes. Mais ils auront un peu, voilà, ils auront un peu des rêves parce que Benfica va, voilà. Le Benfica qu'on a vu aussi, c'est une équipe aussi qui est joueuse et tout ça, qui peut les mettre en difficulté aussi. Parce que Barcelone, qu'on le dise ou pas, dernièrement, ils ont pris des buts aussi face au hors-jeu et tout ça. Mais Hansi Flick, avec lui, ben, tu sais que c'est... En fait, c'est carré, c'est quelqu'un, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est joueur, voilà, pour lui, la consigne, elle est parfaite et tout. Et s'ils font, ils respectent la consigne à la lettre, je crois que voilà, Barcelone risque de les étrier même. Sur les deux matchs, ils risquent de prendre un score fleuve. Ben, concernant le Bayern, on a Xabi Alonso. Donc, je crois que ça serait un match qui va se jouer. Mais peut-être qualification pour Bayern de Munich. Mais peut-être un score léger. Mais je ne vois pas vraiment le Bayern, comme il a dit tout à l'heure, là, Léo, vraiment voilà, dérouler le tapis comme, voilà, comme peut-être une fiesta, jouer en smoking. Non, je ne les vois pas vraiment. Parce qu'ils auront vraiment... Ça serait un match, comme on dit à l'allemand, un match très ouvert. Avec des buts, voilà, des contre-attaques et tout ça, dans des actions. Un match de folie, quoi.
Merci, Cheikh Kenza. Tout simplement, on va faire une petite virgule avant de revenir avec le Real Madrid qui se sont fait surprendre à Betis et qui perdent 2-1 et laissent filer le Barça en tête, qui se sont imposés 4-0 face à la Real Sociedad. L'Atlético de Madrid qui suit le train et qui s'impose 1-0 grâce à Julian Alvarez sur... face à... J'ai perdu le fil. L'Atlético de Madrid qui se sont imposés 1-0 face...
À l'Athletic Bilbao.
Face à l'Athletic Bilbao, c'est ça. Face à l'Athletic Bilbao. Merci Léo. Et du coup, on y revient de suite. Le Real Madrid qui perd 2-1 face à Betis hein, et qui laisse filer le Barça en tête avec 3 points d'avance sur le Real et un petit point d'avance sur l'Atlético. Quels sont vos faits marquants de cette journée de Liga? Très rapidement, s'il vous plaît, puisqu'on a encore un sujet à traiter juste après.
Ouais. Ben moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un super championnat. C'est un match à 3. Il y a quelques semaines, on était là, Barcelone était légèrement décramponné. On s'est dit que ça va jouer entre les deux Madrid. Puis Barcelone, ils sont revenus dans la course au titre. Donc c'est vraiment indécis de savoir parmi les trois qui va prendre le dessus. Hein. Voilà, donc là, c'est vraiment peut-être de tous les championnats, c'est le plus beau et le plus passionnant en tout cas.
Merci Philippe. Léo ?
Surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont tous s'affronter encore.
C'est ça.
Donc ça veut dire que la course n'est pas encore
impossible
figée. Là, le Real a perdu, mais là, la semaine prochaine, ça pourrait être bien avec le Barça ou l'Atlético. Voilà, il n'y a pas de ligne figée, ça va être intéressant jusqu'au bout. Après, on va voir la profondeur d'effectifs. Hein. On parlait tout à l'heure de la défense du Real en Ligue des Champions, ça pourrait peut-être jouer, peser sur le championnat. L'Atlético et le Barça me semblent un peu plus fournis actuellement. Après, voilà, il reste un déplacement à l'Atlético et la réception du Real. Le Real, la réception de l'Atlético, il me semble. Et un déplacement à Barcelone,
à
du
Monaco,
coup.
Ouais.
Pour l'Atlético, il reste la réception du Barça et aller au Bernabéu. Donc, ça va être en plus, ils vont tous s'affronter. Donc, ça va être vraiment sympa.
Ah ouais.
Merci Léo. Chez Kenza, très rapidement, s'il te plaît.
Ouais, le Real vraiment un peu déçu, parce que c'est un que les tiens, en fait. Avec ses choix tactiques laborieux qui fait que vraiment on décroche un peu cette place, parce qu'il n'a pas le droit de mettre à la barre. Mais après, c'est le foot, on peut passer plein tout le temps. Mais je vois vraiment que la fin du championnat vraiment sera passionnante, parce que là, le titre n'est pas encore joué, même si le Barça, ils ont une légère avance. On a encore des 4. On peut encore se la buter, on peut encore se donner les chances d'aller décrocher ce titre. Parce que là, l'Atlético aussi, ils sont encore dans la course. Barcelone aussi qui revient très bien. Je crois que moi, on pourrait vraiment que parler des titres à la fin de la 38e journée.
Merci, Cheikh Kenza. Arthur,
qui va chercher le titre, Cheikh Kenza? T'as combien d'équipes de cœur
depuis
tout à l'heure?
Non, quand je parle d'équipe de cœur, moi, je suis madrilène, je supporte toujours le Real Madrid. Mais Paris, voilà, c'est normal, je suis en France et tout.
Moi, je vais parler d'un... Ouais, vas-y.
Mais je suis pas
voilà. Non, tu lances le débat, Arthur, excuse-moi, mais Arthur, il a conclu ça très rapidement. Okay. Tu veux faire durer le débat, s'il te plaît, Arthur.
Je vais conclure rapidement, c'est qu'on n'a pas assez parlé de la qualité, enfin, assez mis en avant la qualité des équipes en Liga. Et quand on regarde le match du Betis, même s'il joue à domicile contre le Real, mais il y a des joueurs extraordinaires.
Isco, Anthony,
il a la tête à l'endroit.
Et qui a mis un maillot d'ailleurs, qui a fait Manchester United voulait tuer ma carrière. Ouais. Et merci le Betis, maintenant je revis. C'est incroyable comme truc quand même. Hein.
Et moi, le joueur qui m'a épaté, Sabali, il a été très bon aussi.
Sabali,
très bon dans son.
Et Sabali, moi quand je l'ai vu débuter avec Paris, je me suis dit, mais... Il jouait en même temps que Serge Aurier, et je me disais, mais en fait, il est aussi fort que Serge Aurier à l'époque. Et il fait une extraordinaire carrière au Betis, franchement. Il y a des mecs comme ça, comme Foulquier, qui fait une carrière, je crois que c'était où, à Valence, non?
Ouais.
Mais ouais, voilà, Valence. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire, le mot final, c'est que la Liga, c'est le meilleur championnat.
Devant la Première Ligue.
Largement.
Ah oui,
cette année c'est plus passionnant.
En termes de jeu, mais pas en termes de foot.
La Première Ligue, football.
Là c'est un match à 3 depuis le début. Donc.
Merci Arthur. On va enchaîner bien évidemment avec Fonseca qui a pété un plomb tout simplement face à l'arbitre Millot. La LFP aussi, on a vu la réunion entre les présidents Nasser El Khalifi qui s'est pris la tête avec John Textor et avec le président de Lens. John Textor qui a proposé à Nasser El Khalifi qui a proposé de racheter un match de droit TV par beIN Sport à 100 millions et c'est la plus haute value tout simplement proposée et il dit que lui ce qu'il veut c'est vraiment qu'on prenne le maximum de cash pour les clubs français et la Brune l'a remercié très chaleureusement d'ailleurs en début de réunion. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Philippe?
Bah, de toute façon, assez inquiet, parce que le championnat de Ligue 1, il était surcoté, surévalué par rapport à la somme qui était demandée. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'idéal, je pense, mais bon, ça coûte énormément d'argent, ce serait d'avoir une chaîne 100% foot. 100% foot, c'est-à-dire une chaîne qui ne montrait que du foot. Donc, tous les différents championnats, et pourquoi pas une chaîne européenne, c'est-à-dire où tous les pays européens mettraient un petit peu d'argent, et puis on pourrait avoir un championnat espagnol, allemand, italien, français, et puis les Coupes d'Europe, et on laisserait simplement les équipes nationales aux grosses chaînes, comme genre TF1 ou bien M6, voilà, c'est très compliqué. Qui peut investir une telle somme dans le foot français actuellement? Est-ce qu'il y a des solutions? Moi, j'espère que ça ne se finira pas à 12 clubs de Ligue 1 d'ici quelques saisons. Quoi. C'est mal barré parce que, bon, voilà. Le problème, c'est que l'affaire, elle était très mal engagée dès le début. On s'est moqué de Canal et puis Canal, aujourd'hui, ils ont investi ailleurs, hein, dans le rugby, dans sur la F1, dans le sport automobile. Canal, ils ont la Ligue des Champions qui doit probablement faire plus d'audience que la Ligue 1, malgré tout, malgré les quelques matchs qu'ils ont. Donc, je la sens pas très bien, cette affaire, quand même. Hein. Ouais. C'est compliqué, hein. Ouais.
Moi, je vais rebondir sur la seule chaîne unique de football. Et ben, en fait, ça dévaluerait tous les autres championnats. En fait, ça la mettrait au même niveau d'avoir l'accès. Le spectateur, le consommateur, il serait gagnant. Mais tu mettrais cette chaîne à combien aussi? Tu peux pas la mettre à 40 euros.
Non, mais chaque. Oui, après, il faudrait essayer de...
le match par match.
Ouais, c'est ça.
Mais non, mais ça, c'est.
Le problème, c'est comment tu veux faire. On n'a pas les moyens en France d'avoir un.
Mais non, mais le véritable problème du foot français, c'est sa qualité.
Oui, c'est ça. C'est survalué, le championnat.
Non, non, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire de la manière dont on filme les matchs, la qualité des entraîneurs, la qualité des. De comment dire,
c'est beaucoup trop cher stades, pour ce que c'est, quoi.
C'est tout le produit en fait qu'il faut retravailler. Ouais. On peut pas donner ce produit là quand on regarde certains matchs, c'est catastrophique. PSG, c'est soi-disant le meilleur match PSG Lille, franchement, tu te fais chier,
bien sûr. Non, puis il y a trop d'écart, quoi. Ben, voilà, donc
ouais, mais il y a ces mêmes écarts.
Il y a 13 points d'avance, bon,
non, mais il y a ces mêmes
régulièrement,
écarts
régulièrement chaque année. C'est
non,
ça,
mais
le
y a les mêmes écarts en Liga. Le Real, c'est très très riche,
oui,
et
mais enfin,
les Eibar, les deux, trois, comme
oui,
ça.
Mais ce que je veux dire, c'est quand même que en Espagne, il n'y a pas une équipe qui écrase la compétition pendant 10 ans.
Bah si.
Ah non, 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 si, soit Madrid, Madrid, soit Barcelone, soit l'Atlético, mais c'est un match à 3,
non,
mais c'est un match à
2. L'Atlético, c'est une fois sur
peu importe.
Tous les 10 ans.
Paris, c'est un match à 1.
Non.
Paris Saint-Germain n'a jamais été. Si, une année, Monaco et Lille, c'est tout.
Non,
sinon,
c'est les,
Paris,
c'est,
il s'envole le championnat.
Pour moi,
il s'envole le championnat.
Ils ne veulent pas le championnat.
Il faudrait.
Ils se sabordent tout seuls. Les autres clubs de Ligue 1 se sabordent.
Oui,
quand on regarde la Coupe de France, regardez, ils se font sortir par des N2, des N3.
Oui, bah oui,
c'est de la faute de qui? C'est pas de la faute du PSG.
Quand
l'Olympique de Marseille ne gagne
pas
contre Auxerre, ils prennent
des
défaites.
On dit pas que c'est de la faute du PSG. On dit qu'il y a trop d'écart.
Non, il n'y a pas d'écart.
Dans le foot français. Ah si, il y a trop d'écart entre le PSG et les autres équipes. Si, si,
non, c'est mal géré.
Il y a trop d'écart. Bah, c'est mal géré peut-être, mais oui, c'est mal géré entre autres. Mais moi, je pense qu'il y a trop d'écart. Il faudrait, comme à une certaine époque, dans les années 90, où il y avait 2-3 clubs qui se titillaient, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, et éventuellement Nantes, Monaco,
Bordeaux.
Ou Bordeaux. Voilà. Voilà. Oui, même Lyon. Il fut une époque où Lyon, ils écrasaient le football français. Il n'y avait plus de suspense en championnat. Il y a eu Nantes à un moment qui les a
non, mais ils les ont écrasés sportivement, pas économiquement.
Oui, je parle.
À l'époque, Lyon renflouait même les autres clubs de Ligue 1.
Ils leur donnaient des 15 millions.
Mais là, maintenant, ils les écrasent sportivement et financièrement. C'est ça le problème.
Non, sportivement, pour moi, c'est les clubs français qui se sabordent. Quand on regarde l'Olympique de Marseille la saison dernière, qui n'arrivent pas à aller en Ligue des Champions et qui font une Ligue des Champions tous les 2-3 ans,
ouais,
c'est scandaleux.
Non, financièrement aussi, parce que regarde, cet hiver, quand tu poses 70 millions sur Kvaratskhelia,
oui, mais Lyon, qu'est-ce
personne
ne peut
faire.
Comment ils peuvent attirer Lyon des Almada, des joueurs comme ça? Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas l'envergure. Comment ils peuvent payer des Mikotadze?
Parce qu'on n'a pas l'argent.
Oui,
personne n'a l'argent.
Parce que le produit, il est mauvais, donc tu ne fais pas rentrer d'argent.
Non, parce que si tu avais un milliardaire à la tête.
Mais non, c'est pas une question de milliardaire.
Le problème, c'est que. Enfin, le problème. Au PSG, tu as un État qui est à la tête du club.
Ah oui,
parce que Nasser, c'est un intermédiaire.
Oui.
Ça veut dire que lui, il a des fonds illimités derrière. Donc, si tu veux poser 80 millions, 120. S'ils avaient voulu poser 120 millions sur un joueur cet hiver, ils auraient pu le faire, tu vois.
Oui.
Aujourd'hui, il n'y a aucun club en France qui est capable. Et c'est pas une question de. Je pense. De manière de gérer son club ou non. C'est juste que t'as simplement pas d'argent pour le faire. Quand je regarde d'autres trucs, par exemple, en première ligue, la répartition des droits TV par rapport au championnat. Le premier gagne 1,1 fois plus que le dernier. En France, tu regardes la répartition, le PSG gagne 3 ou 4 fois plus que le dernier. Tu vois, ça, c'est un problème, par exemple,
je
pense.
Je suis d'accord avec toi, c'est un problème. Tu dois travailler le produit ensemble.
Voilà,
tu dois travailler ensemble.
Et moi, ça, quand Nasser dit... je propose 100 millions pour un match, regardez, je suis le sauveur du football français. Non, parce que derrière, si tu étais ça, par exemple, tu militerais pour ce que je viens de dire sur la répartition des droits TV. Tu pourrais...
Après, tu pourrais pas aussi, avec ce que toi, tu as investi, et ce que eux, ils investissent, parce qu'il faut savoir aussi ce que les clubs français font, parce que moi, c'est bien beau de dire il y a un méchant loup dans le championnat, c'est pour ça que tout le monde ne mange pas à sa faim, moi, je suis pas très d'accord. Quand je vois tout simplement d'autres clubs qui sont autour, et que, par exemple, ils ont des bons joueurs, et l'année d'après, ils vont jouer la Coupe d'Europe, ils vont vendre tous leurs bons joueurs juste rapporter de l'argent et acheter des joueurs moyen pour faire du bricolage à la saison. Excusez-moi, mais
aussi
voilà, ils vendent le défenseur ouzbékistan 60 millions, un peu plus même, avec des bonus.
Ils achètent
qui derrière
40. Ouais, mais parce que tu peux pas, t'as une offre qui arrive sur la table quand t'as un club. Quand t'es à trésorerie,
oui, même l'année prochaine, ils vont pas en remettre. Même 10 millions.
Oui,
même 10
le
millions,
problème aussi, c'est il faudrait faire comme en Liga, où t'as pas le droit d'être en déficit, tout simplement. J'ai regardé, c'est indiqué partout. Depuis l'arrivée de QSI au PSG, t'es en déficit d'1,4 milliard. Dans quelle entreprise dans le monde, quand tu as un déficit d'1,4 milliard, enfin un déficit tout simplement, t'as pas de problème, tu vois. Alors qu'en Liga, alors moi je critique, on peut critiquer tes bases pour plein de trucs, mais je trouve que ça, le salarié, la manière dont ils gèrent l'argent, c'est intéressant. Et le problème, c'est que t'as un club comme Lens qui est pas à la base calibré pour aller poser. D'ailleurs, regarde, même meilleur exemple, Brest. Pourquoi Brest, ils se sont pas renforcés cet été, ils ont pas dépensé.
Ils ont vendu tous leurs joueurs.
Parce qu'ils savent que la stabilité de leur club, aujourd'hui, elle n'est pas assurée avec les droits TV en berne. S'ils vont poser 20 millions sur un joueur, et ils savent aussi que leur futur, c'est pas la Coupe d'Europe à Brest. C'est avant ça, tu as un stade à construire, tu as un championnat de milieu de tableau à jouer. Ils vont pas aller poser 20 millions. Aujourd'hui, tu as pris l'exemple de Kusanov. T'as un club qui arrive avec 40 millions d'euros sur la table, tu peux pas refuser. Pas un club comme Lens.
Non,
un
je dis
club...
pas le contraire. Mais derrière, tu les réinvestis pour que tu sois à peu près au même niveau.
Oui, sauf que t'as d'autres dépenses à côté. Ouais, mais...
Non, moi je vais.
Ça m'a été le cas de Monaco en 97. Hein. C'était l'année où ils avaient battu le PSG. Et Monaco, ils ont vendu tous leurs joueurs l'année après.
En 2017.
2017.
Bernardo Silva.
Ils sont champions. Et puis voilà. Ils arrivent même, je crois, en demi-finale de Ligue des Champions.
Fabinho,
qui avait un potentiel. Et un des plus beaux champions de France de ces dernières années. Je crois que c'était le championnat où on avait. Même le deuxième, il avait marqué beaucoup plus de points que certains premiers. Oui, c'était le PSG qui avait, je crois que c'était un championnat à 90 points. C'était rare. Et c'était un beau champion. Et ils ont tout vendu. L'année d'après, terminé. Ils ont tout vendu.
Moi, je parlais de progresser. Et quand tu regardes Brest en allant chercher Ajorc pour jouer la Ligue des Champions, bah, c'est un choix malin. Parce que lui, c'est un super joueur, Ajorc.
Donc
pour moi, les clubs, que ce soit l'Olympique Lyonnais, Marseille ou Monaco, bah, quand tu regardes les joueurs qui arrivent, ou le projet, la stabilité des directeurs techniques, des entraîneurs, ou les départs, ben non, c'est eux qui se sabordent tout seuls. Tu peux pas construire un club avec des joueurs, tu fais venir 16 joueurs, t'en fais partir 20. C'est pas possible.
Tu prends l'exemple d'Ajorc. Ajorc, c'est un super joueur pour jouer la Ligue des Champions à Brest.
Oui.
Demain, Lille va chercher Ajorc, ou même le PSG va chercher Ajorc pour jouer la Ligue des Champions. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font?
Non, mais sur une sortie de banc, pour moi, c'est un super joueur. Il va dépanner. Il a un profil. Regarde.
Non, mais il a un bon profil.
Le Real,
mais par exemple.
Avec comment Rossellu. Il s'appelle Exactement. Rossellu, c'est un joueur qui a fait une carrière.
Mais qui a surperformé, par exemple.
Oui, Rossellu, il était dans la rotation.
Jamais tu te serais dit que Rossellu, il allait jouer aussi. Enfin, il allait être
aussi performant au Real.
Même lui, je pense que dans sa carrière, il ne serait pas dit je vais mettre un doublé. C'est en demi-finale qu'il met un doublé contre City.
Contre Bayern.
Lui-même se serait jamais dit je vais performer à ce niveau-là. Et d'ailleurs aujourd'hui tu regardes ses stats il est parti en Arabie Saoudite, il me semble.
C'est un joueur qui a un profil,
mais t'as un cadre aussi.
Voilà,
t'as le cadre du Real,
lui tu l'utilises. Donc tu regardes Choupo au Bayern,
il était dans la rotation.
Qui te dit qu'il serait à un moment l'un des attaquants les plus prolifiques en Europe? Il a fait vraiment la saison, tu sais, la deuxième saison quand il s'est imposé titulaire.
Mais quoi, 10 buts, 12 buts?
Je sais plus. Mais
il n'en met pas beaucoup, il me semble.
Oui, mais il est tellement.
Et dans un Bayern malade aussi.
Oui, mais il est tellement important dans le jeu. Et pour moi, c'est une bonne idée.
Je crois que le problème du foot français, ça serait un peu aussi, voilà, un peu d'ouvrir un peu.
En fait,
d'ouvrir certains clubs aussi, voilà, à d'autres investisseurs et tout ça. Parce que quand on parle de clubs étrangers, par exemple, en Espagne, ce n'est pas le même cas. En Espagne, ce sont des structures qui sont tellement bien organisées. C'est les socios, c'est les supporters et tout ça. Et comme tu as dit avec tes bases. En fait, il y a une organisation qui est tellement peaufinée, qui est tellement parfaite que les clubs sont tellement sains, qu'ils sont mieux gérés, en fait, parce que ce sont des entreprises, en fait. Donc, ce n'est pas comme là où tu arrives, tu es entrepreneur, tu investis ton argent, tu fais un peu comme tu veux, tu dictes tes lois. Non, en Espagne, ce n'est pas comme
ça. Ils sont plus sains, en tout cas. Voilà. Ils ne sont pas idéaux.
Voilà,
parce que
mais ils
regarde
sont
le
plus
Barça
en fait,
récemment, tu regardes les comptes des très gros clubs. Il n'y a pas un club en Europe, je crois, enfin, de très gros clubs qui est dans le vert. Ils sont tous soit dans le rouge, soit la balance,
la balance, elle est un peu déficiente.
Mais le problème, c'est de chercher à ce que la balance soit équilibrée au maximum. Mais quand tu as des clubs qui ont des millions, des centaines de millions de déficits, c'est là qu'il y a un problème.
On va terminer l'émission. Hein. On ne pourra pas faire le quiz, hein. on a vraiment beaucoup parlé. Je vais avoir une petite question de quiz juste pour donner en haleine. Hein. La question, la voici, Arthur, faut être concentré.
Oui.
Qui remporte l'Europa League en
2021-2022?
Séville.
Non.
Non, l'Europa League en 2021.
Villarreal.
Non, c'est pas
Villarreal. Ils font la Ligue des Champions.
Il y a un Manchester United, mais c'est pas là. Chelsea.
C'est pas Unai Emery. C'est pas Unai Emery.
Non, c'est pas Unai Emery. Sevilla.
Non.
Non. Chelsea. L'Europa League en 2021.
2022.
Ouais. Ah non,
c'est un club allemand.
2021-2022.
Francfort. Ouais, 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 ouais. Top pour Léo. Super pour Léo. C'est ça. Et voilà. Merci en tout cas à Arthur. Merci à Shekenza. Merci à Philippe. Merci à Léo. Et merci à Léo à la technique aussi.
Quelle
semaine de football. On revient la semaine prochaine avec beaucoup d'exclus. On espère en tout cas. Et voilà, en tout cas, on vous suit et on vous dit bonne soirée à vous. Et couvrez-vous bien, à la semaine prochaine.
Okay. En tout cas, vraiment, c'était une belle émission.